Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café qui va être, sans grande surprise, hein, largement dédié aux annonces Apple. Je suis Guillaume Vendée et pour ceux qui découvriraient le podcast, c'est une émission hebdomadaire qui vous parle de tech. Et évidemment, dans cet épisode, donc, on va largement parler d'Apple. Je suis accompagné ce soir de Léo Duff. Salut Léo, comment vas-tu?
Toujours, salut. Ça va bien et toi?
Ça va très très bien. Franchement, on a énormément de choses à raconter et pour une fois, le chapitrage de l'émission va être un peu différent. Je pense que les parties qui concernent les annonces Apple vont être elles-mêmes chapitrées. Donc dans votre lecteur de podcast, si vous voulez passer d'une rubrique à l'autre, peut-être que ça vous permettra d'avancer plus vite dans l'émission parce qu'on a vraiment plein de choses à se dire. On a Matt, alias Prof du Web, qui va nous rejoindre d'ici tout à l'heure pour une bonne partie de l'émission, la plus grande, je l'espère. Et puis, avant qu'on attaque les news, les incontournables, c'est que vous pouvez, vous le savez maintenant, réagir à l'émission en commentaire sur techcafé.fr. Vous pouvez discuter avec nous et entre vous sur le groupe Telegram, dont le lien figure dans l'entête des notes de l'émission. Écoute, sans autre forme de procès, Léo, on attaque tout de suite avec cette conférence WWDC Apple. On a effectivement du boulot. Juste avant qu'on clique sur l'enregistrement, on était en train déjà de commencer à en parler. Il y a deux choses qui me viennent en tête et puis après je te laisserai me donner ton sentiment global et me dire si tu le partages, ça t'évoque d'autres choses. Mais pour la conf Google des développeurs, il y avait eu des choses qui étaient vraiment impressionnantes sur le plan technique. Des choses qu'on ne voyait pas venir, qui moi me faisait me dire ça repousse un peu les limites de ce qu'on peut faire sur le plan de la technologie. Dans le cadre de cette WWDC, donc qui est la conférence annuelle destinée prioritairement aux développeurs pour l'écosystème Apple, mais qui s'adresse aussi par extension à nous tous consommateurs et passionnés de tech que nous sommes, il y avait pas des choses. Ah, si, il y avait quand même plusieurs choses qui étaient diablement futuristes, peut-être pas aussi technologiquement impressionnante, on va voir, il y a quand même plein de choses, mais une somme de verrous qu'on pouvait ressentir à l'usage des appareils Apple qui sautent les uns après les autres, et plein de choses qui nous font aussi voir l'avenir de manière assez radieuse dans cet écosystème. Vous comprendrez assez vite qu'on est très enthousiaste. Et du coup, plein de choses de l'ordre de la vie privée, sur les usages évidemment grand public, mais aussi sur les développeurs et évidemment sur le plan matériel. Qu'est-ce que ça t'a... Comment t'as perçu ça, toi, au global, Léo?
Écoute, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit que Apple ne crée vraiment rien, mais rattrape son retard. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit ça, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai. Il y a des fonctions qu'ils ajoutent, que ce soit iOS, etc. Des fonctions qu'ils ajoutent qui sont pas foncièrement nouvelles, qui existent ailleurs, qui remplacent simplement des applications qui étaient déjà existantes, mais qui les rendent natives. Et c'est super intéressant, en fait. Alors forcément, on va avoir toute une sphère d'Androidos. J'en ai vu beaucoup qui disaient « Oui, mais comment vous extasiez là-dessus? C'est pas nouveau. » On s'extasie tout simplement parce qu'on est content de l'avoir enfin dans notre environnement. Voilà, la raison est simple. Après, ce que j'ai aimé dans cette conférence, c'est que j'ai eu l'impression qu'ils ont pas cherché à avoir un wow effect. Ouais. Ça a été vraiment expéditif. Il y avait beaucoup d'informations à traiter, donc quelque part c'était une nécessité. Mais tout était pertinent, en fait. J'ai trouvé, il y a peu de moments où je me suis dit, bon là c'est un peu ridicule, comme on a pu voir avec la présentation des animojis, etc. Il y a eu peu de moments comme ça. Il y a peu de moments où je me suis ennuyé. J'avais vraiment l'impression de voir une conférence qui s'adresse pas au grand public, aux personnes qui s'intéressent vraiment à la marque et à tout ce qui touche à l'intérieur d'iOS, etc. J'ai l'impression que c'était plus professionnel que d'habitude, peut-être.
Ouais, j'ai ressenti ça aussi. Alors, il y a aussi plein de choses qu'on peut dire au global. Alors, les personnes qui parlent du fait que les innovations qui sont présentées sont des innovations qu'il y a ailleurs, tu l'as dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà présentes ailleurs, pas toutes. Et il y a même des personnes qui réagissent en disant « On s'extasie parce qu'Apple lève les verrous qu'ils ont mis eux-mêmes dans leur écosystème. » Et quelque part, c'est vrai. Je pense que pour plein de choses, c'est vrai et qu'il faut reconnaître que dans cette conférence, ils ont annoncé plein de choses qu'ils avaient dans les cartons. De toute façon, ils ont plusieurs choses dans les cartons à plusieurs années d'écart, mais qu'ils avaient dans les cartons de l'année dernière et qui ont vraisemblablement été repoussés à cette année, qui ont été cumulés avec tout le travail d'innovation qui a été fait depuis. Et effectivement, il y a ce travail d'ouverture de l'écosystème comme il n'y en a pas souvent eu par le passé.
Clairement. Et pour vraiment faire une espèce de petit bilan, je pense que c'est l'une des meilleures conférences que j'ai vues depuis bien longtemps d'Apple.
Oui, moi aussi. C'est celle qui m'a le plus enthousiasmé. J'ai eu des moments de petits frissons, ce qui m'arrive plus forcément ces derniers temps. Et on voit vraiment la différence encore plus probablement entre cette WWDC qui est destinée aux développeurs et les conférences qu'on a pour les sorties de produits qui vont être de plus en plus axées services, usage. D'ailleurs, un petit mot aussi pour dire que Tim Cook a, je trouve, de manière très simple, mais très de manière très évidente quand même, bien présenté la logique d'Apple maintenant, qui est de faire du matériel de qualitatif, accompagné de logiciels qualitatifs, parce qu'ils font l'un pour l'autre et inversement, et tout ça pour amener à de chouettes services. Alors évidemment, les services, c'est un petit peu les balbutiements. On verra ce qui arrive pour la série. Ils nous ont donné un petit aperçu de ce qui va arriver. C'est cool, mais c'est pas ce sur quoi on va s'attarder. Je voudrais qu'on commence. C'est une rubrique que j'avais mis plutôt en fin de revue, donc je vais traiter tout ça. Je propose, Léo, qu'on traite tout ça par thème plutôt que par OS ou que par appareil, etc. Je trouve que c'est plus logique. Je crois qu'on va tous y voir plus de lisibilité. Et j'avais mis la partie vraiment axée pour les développeurs, vraiment 100% pur jus développeur à la fin. Et je crois que c'est vraiment pas lui rendre honneur. Ça arrive certes en fin de conférence, mais je crois que c'est peut-être là où il y a justement sur le plan technologique quelque chose d'assez fascinant. Qu'est-ce qui a été annoncé? Le truc le plus marquant pour moi, partie développeur, c'est Swift UI. Donc pour rappeler un petit peu ce que c'est que Swift aux personnes qui nous écoutent, c'est le langage de développement qui permet de coder les applications, qui remplace un langage qui est un petit peu plus obscur à apprendre et à interpréter, à lire, qui est l'Objective-C, donc qui visait à le remplacer, qui a déjà beaucoup facilité l'apprentissage du développement des applications, notamment les applications de l'écosystème Apple. Mais là, ils nous ont fait une démonstration avec Swift UI où grosso modo c'est du drag and drop, quoi. C'est du WYSIWYG. Tu construis ton interface. Alors ça fera pas toutes les interfaces d'app, mais pour les usages sommaires de par exemple une liste d'images, une liste de collection d'images avec des choix, enfin des choses qui prenaient vraiment des tonnes de lignes à coder et même à concevoir sur l'ancienne interface de développement de Xcode. Là, on a l'impression que c'est presque à la portée d'un enfant qui découvrait le truc sans apprentissage et le code se met à jour en temps réel. Moi, ça m'a vraiment bluffé. Je suis conscient qu'on pourra pas tout faire avec, mais ça m'a quand même impressionné de voir à quel point ça avait avancé. Est-ce que t'as été marqué aussi, Léo, par ça?
Oui, pour le coup, c'est pas du tout un usage qui me parle, mais c'est vrai que le fait de voir ce drag and drop, ça paraît si accessible, en fait. Alors que j'ai aucune notion de code, de Swift, ni rien, mais ça paraît hyper simple. Alors ça l'est pas forcément, mais en tout cas ce système de drag and drop était assez impressionnant.
Ouais, pour être bien complet, c'est vrai que le drag and drop des éléments d'interface, il y était avant, et j'ai l'impression qu'il est encore simplifié de par les alignements. Il y a sans doute encore des règles à avoir, hein, pour les orientations, portraits, paysages, les différentes tailles d'écran, mais en plus il y a la mise à jour en temps réel, c'est-à-dire que tu mets à jour ton code, ça met à jour l'aperçu en temps réel, donc vraiment bluffant. Et puis ce programme interne d'Apple Marzipan qui commence à avancer de manière flagrante avec donc Catalyst, qui est cet outil qui est dispo maintenant pour les développeurs pour porter leurs applications iPad sur Mac. Là, on commence à toucher du doigt un aspect qu'on va aborder tout à l'heure, qui est celui de la convergence croissante entre les différents appareils d'Apple. Bon, est-ce que ça t'évoque un petit commentaire en plus ou est-ce que c'est dans la même lignée de ce que tu disais avant, Catalyst?
C'est un peu la même chose, sauf que ça montre un petit peu l'objectif principal d'Apple, qui est de porter toutes ses applications sur le Mac. Et c'est une bonne chose. J'avais parlé du fait qu'on verrait de plus en plus d'apps qui seraient transposées d'iOS au Mac, tout simplement parce que la plupart du temps elles sont mieux faites, en fait. Donc non, c'est intéressant. Moi, vraiment, le côté Catalyst, etc., m'intéresse pas. De voir comment ça fonctionne, ça m'intéresse pas. Par contre, le message qu'il porte m'intéresse beaucoup.
Bon, c'est cool. En tout cas, si jamais vous aviez des formations en cours de Swift 4 ou même pire, version 3, surtout, remettez ça à jour, parce que là, plus que jamais, il faut vous mettre à jour avec la dernière version de Swift pour apprendre le développement. Bon, rubrique suivante, celle de la vie privée. Alors moi, j'ai eu quelques petits moments où j'ai eu quand même, on parlait tout à l'heure des wow effects, ça m'a quand même donné un sentiment de tournis avec cette introduction. Chez Apple, il n'y a pas besoin, enfin c'était pas une introduction d'ailleurs, c'était dans la description que faisait Craig Federighi de la vision d'Apple. Il disait, chez Apple, il n'y a pas besoin d'interrupteur pour demander à Maps de respecter votre vie privée. J'ai trouvé que le tacle était coquin mais bienvenu, parce que que Apple, enfin du côté de chez Google, ils nous ont présenté Google Maps où on a effectivement le mode incognito. Chez Apple, c'est natif et ça a un peu guidé, bah déjà les conférences qu'on a de la part d'Apple ces derniers temps, mais aussi beaucoup celle-ci. Avec le Sign In with Apple, qui est vraiment la surprise. Est-ce que tu veux nous décrire, Léo, ce que c'est que ce Sign In with Apple ?
Alors, c'est tout simplement, ils s'attaquent à Facebook et Google. Hein, ils se le sont pas cachés dans la conférence.
C'est affiché, ouais.
En gros, quand vous téléchargez une application, quand vous inscrivez à un service, il y a souvent ces petits boutons qui permettent de s'inscrire avec Facebook ou avec Google et ensuite de se connecter avec ces comptes-là. C'est utile parce que c'est pratique, c'est rapide, on n'a pas à mettre de nouvelles informations, on n'a pas à rentrer son adresse mail, etc. Et ensuite, voilà, on connaît notre mot de passe Facebook, etc. C'est pas un nouveau mot de passe à apprendre. Voilà, le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui transitent et la plupart de ces applications prennent énormément d'informations. Information, surtout sur notre Facebook, sur notre Google, etc. Il y a un suivi en fait qui respecte pas trop une quelconque vie privée. Là, en gros, Apple veut proposer son propre bouton. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que Apple est vraiment branché sur la vie privée, donc il va montrer deux choses seulement, votre nom et prénom, ainsi que votre adresse mail. Sauf que vous pouvez demander à Apple à cacher votre adresse mail. À ce moment-là, en fait, il va créer un alias, qui est une suite de nombres, @AppleID quelque chose, et ensuite, à chaque fois que l'application vous enverra un mail, en fait, elle enverra un mail sur cet alias et Apple va directement le transférer vers votre propre adresse mail. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va éviter un petit peu tout ce spam des applications, on ne sait jamais comment se désinscrire. Là, tout simplement, on aura juste à dire à Apple, bah hop, celle-là, on la dégage. Et pour chaque application, il y aura une adresse mail unique. À chaque fois, il va en créer une nouvelle. Voilà, je pense que c'est assez clair comme ça.
Ouais, c'est super clair et enfin moi je suis vraiment enthousiaste là-dessus pour deux raisons. D'une part parce que je trouve que c'est bien en tant que fonction, en tant que telle, mais qu'en plus ça montre une direction pour tous les acteurs. C'est que je suis convaincu qu'il y a deux choses qui sont essentielles dans ce bouton qui vont être repris probablement par les autres, par toute ou partie des autres. C'est le fait déjà de montrer ce qui est communiqué, parce qu'avant quand on se connectait avec un Google ou un Facebook, on n'avait pas forcément l'étendue des champs qui étaient transmis. Là, Apple va jouer la transparence des affichés et on pourra du coup les sélectionner. Ça, c'est un point qui est super intéressant. L'autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Apple va même décider de le rendre obligatoire dans les apps. Donc, si vous développez aujourd'hui une app et que vous proposez le Facebook Connect, vous allez avoir l'obligation d'intégrer l'Apple Sign In aussi.
Et même l'obligation de le mettre au-dessus, ce qui fait un peu polémique.
Ah, alors ça, je l'avais pas relevé, tu vois. Du coup, effectivement, c'est assez violent.
c'est un peu violent, voilà, obligé de le mettre en premier choix. Donc, il y a ça soulève un petit peu ce truc qu'on entend depuis quelques temps qui dit qu'Apple est pas trop abuse un petit peu de sa position. Ouais. Voilà, ça soulève d'autres problèmes, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'Apple demande en tout cas.
On pourrait être amené à en reparler. C'est vrai que parfois leurs règles semblent sur certains éléments assez abusives. Bon, je comprends aussi évidemment leur démarche à leur place. Ils ont raison de se lancer. Je serais à leur place, je serais pareil sans doute. compatible web. Évidemment, hein. Y a la compatibilité Android aussi, si je dis pas de bêtises, qui a été confirmée. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'intégrer dans les applications Android. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a que Apple qui pouvait proposer ça. Il y a aucun autre acteur qui aurait eu ni la force de frappe ni le positionnement du respect de la vie privée pour le proposer. Donc c'est très chouette d'y assister. Donc un premier wow effect. Alors ça fait écho, hein, c'est pas dans le cadre de la WWTC, mais je voulais quand même le mentionner, à une enquête d'un journaliste du Washington Post qui est assez conséquente et qui montre à quel point la promesse d'Apple est pas totalement constatée, notamment avec les usages des applications tierces. Il montre, ce journaliste, qu'ils ont redirigé tous les flux d'échanges que pouvait avoir l'iPhone, ils les ont mesurés, et la nuit, souvent, à certaines périodes, il y a pas mal d'informations qui partent, qui sont absolument pas souhaitées par l'utilisateur. Autant quand on est dans l'écosystème Apple à 100% avec les apps Apple, on a ce respect complet de la vie privée. Là, le journaliste pointait du doigt qu'Apple, contrairement à ses promesses, ne faisait pas tout ce qu'il était en son pouvoir à 100% pour garantir le fait que les données transitent pas. Je trouve que du coup, ce Sign In with Apple est pas une réponse, c'est pas fait en réaction à cet article évidemment, mais quelque chose de très intéressant à mettre en parallèle. Je pense qu'ils peuvent pas tout faire non plus, mais c'est un positionnement fort. T'avais vu toi cette enquête, je sais pas si t'avais lu l'article.
Oui, j'avais lu ça. C'est une bonne chose parce que le problème avec les promesses, en fait, c'est que c'est difficile de les tenir. Et récemment, Apple a fait beaucoup de communication sur ce genre de promesses. Tout ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Faut pas écouter, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Je pense qu'il faut faire entièrement confiance à personne, encore moins une marque et encore moins un gouvernement. Donc voilà, ça rappelle ce genre d'information qu'il faut pas non plus faire confiance complètement à ce genre de société. Juste voilà, en général, elle va dans le bon sens. C'est peut-être elle, c'est certainement elle-même qui va le plus dans le sens de la vie privée, mais pas à 100%.
Ouais, on est d'accord. Alors, autre élément dans le contexte de la vie privée, dans le thème de la vie privée, donc dans les nouvelles versions, on va avoir la possibilité de donner notre accord pour la géolocalisation une seule fois pour les applications, et on va avoir des rappels et des rapports de l'utilisation qu'en effet. Donc là aussi, on peut le mettre en lien direct avec cette critique, c'est que Apple propose concrètement des choses pour les utilisateurs, et évidemment pour les développeurs en première ligne, pour lutter contre ces abus de collecte de données sur les environnements tiers. Donc c'est rassurant aussi de voir que ça avance à ce niveau-là. Ils désormais choisissent d'interdire purement et simplement les trackers dans les apps pour enfants, donc tout ce qui est justement de la collecte de données ou de la mesure qui pourrait être de l'ordre du publicitaire, tel qu'on vient d'en parler. Dès qu'on fait une app pour les enfants, ça va être interdit. Et puis, on va avoir la possibilité aussi d'enregistrer. Et là, ça concerne plus ceux qui utilisent les caméras connectées dans les environnements domotiques à la maison. La possibilité de chiffrer les vidéos en local et de stocker sur iCloud les vidéos plutôt que vos vidéos soient envoyées sur les serveurs des services qui hébergent vos vidéos. Bon, je pense que c'est parfois quelque chose qui peut être facilement critiqué, mais je crois savoir quand même qu'il y a pas mal d'acteurs autour de la domotique qui chiffrent les données d'une manière ou d'une autre. Donc là, elle est faite plus tôt, elle est faite au niveau de l'appareil, tant mieux, mais il va falloir que ce soit intégré partout. Il y a d'autres choses que tu voyais nécessaires d'être soulignées dans le domaine de la vie privée, Léo?
Oui, pour revenir à la possibilité de donner la géolocalisation une seule fois, je me demande si les gens vont pas être un peu saoulés constamment qu'on leur demande leur autorisation. Alors c'est une bonne chose, hein. Vraiment, ce genre de fonction, c'est exceptionnel, ça devrait être natif depuis longtemps déjà, donc tant mieux que ça arrive maintenant. Mais c'est vrai que j'ai testé un petit peu la iOS 13,
Ah
et en
ouais.
fait souvent on nous demande des autorisations, c'est-à-dire que j'ouvre YouTube, il va me dire oui, YouTube souhaiterait accéder à Bluetooth, ce genre de choses. Et régulièrement, comme ça, on va me poser des questions, demander si je suis d'accord avec l'usage qu'ils en font, si je suis d'accord avec le fait qu'ils l'utilisent tout simplement. Donc, c'est vrai que ça fait pas mal d'alertes. Je me demande comment les gens vont réagir à ça parce qu'ils n'ont pas toujours une conscience au niveau de la confidentialité, etc. Ils savent pas trop ce qu'on peut faire avec leurs données. Donc, j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir à ça.
Ouais, ça saoule, t'as raison, et puis surtout ça nuit à l'appropriation des outils, hein. Il y a qu'à voir des personnes seniors qui s'approprient des outils, quels qu'ils soient, hein, pour le coup, que ce soit les plus simples ou plus compliqués, il y a toujours des tonnes de questions, même encore une fois, hein, même sur iOS, quand tu commences, la notion de compte iCloud, la notion de code PIN, de code de verrouillage de ton appareil, ça reste des notions très compliquées, donc toutes ces pop-up de sécurité, ça aide pas forcément, mais bon, on peut.
Faut partir du principe que si on gagne en confidentialité, la plupart du temps, on perd en confort. Là, c'est très peu le cas. C'est vraiment extrêmement faible. Juste de temps en temps, j'ai cliqué sur OK. Mais je me demande quand même si comment on va réagir à ça.
Bon, on verra les retours et puis surtout c'est les tests qui vont pouvoir nous aider à y voir clair. Alors on va switcher d'univers. J'essaye d'enchaîner vite parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire et peut-être que Matt voudra revenir aussi sur une partie des éléments
Je crois qu'il est
qu'on vient
arrivé
de
d'ailleurs.
Tu es là, Matt?
Oui, absolument. Est-ce que vous
Tu vois,
m'entendez?
tu dis son
Oui.
prénom.
Je sais pas si effectivement on a pensé à regarder, je sais pas si Léo a pensé à regarder parce que j'ai prononcé ton prénom ou parce que le hasard a fait que tu es arrivé à ce moment-là. Mais en tout cas, salut Matt et merci de nous
Salut.
rejoindre. Alors justement Matt, je sais pas si tu as le conducteur sous les yeux, mais on a rebouclé déjà notre sentiment global sur la WWDC. On a parlé du gros move concernant les développeurs pour le fait de faciliter la création des applications natives avec SwiftUI et puis Catalyst qui permet de porter les applications iPad sur Mac pour les développeurs dès maintenant. Et on a enchaîné tout le bloc vie privée qui évidemment nous a beaucoup marqué. Est-ce que tu avais des choses sur lesquelles tu voulais peut-être t'attarder, Matt, que ce soit sur l'aspect global de la WWDC? WWDC ou que ce soit sur la vie privée.
Évidemment, c'est le cœur de métier de la vie privée. On essaie de nous en vendre de plus en plus chez Apple. Alors ça, pour ça, c'est sûr qu'ils ont continué à, à enfoncer le clou. Je ne sais pas si vous allez en parler ou vous en avez parlé. Sign in with Google, ça a été absolument...
Sign in with Apple, ouais, on en a parlé à l'instant. Mm-hmm. Ouais.
C'est vraiment quelque chose de super chouette. Pas juste pour Apple, mais aussi pour les développeurs, parce que quand tu es un développeur, s'il y a quelque chose qui te fait réellement chier de gérer, c'est une authentification. Si c'est fourni directement par Apple, c'est chouette, parce que tu te dis que d'abord, ça va attirer une clientèle qui était peut-être réticente à fournir tes données chez toi. Fait que, moi, je vois ça comme un axe très porteur pour les développeurs, pour qu'ils puissent avoir des gens dans leur écosystème consommer des données. Fait que ça, si tu vois sous cet angle-là, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Évidemment, les adresses courriels jetables, c'est juste stupéfiant. Je ne comprends pas pourquoi personne d'autre y avait pensé avant Apple. C'est low-tech à fond, parce que le email puis le courriel, ça fait des années que ça existe, hein, quand tu y penses. Ben oui. C'est Apple qui y pense, mais en 2019 seulement, alors que Google, c'est son cœur de métier et tout ça. Alors, non, vraiment chouette pour ça au niveau du développement, que ce soit des applications ou... Je pense aussi que ça va être disponible pour les sites web, si j'ai bien compris.
Oui. Site web et Android, oui.
Alors ça, écoute, en tant que développeur et artisan du web, je peux juste être content parce que j'ai plus du tout à me soucier de quoi que ce soit pour que des utilisateurs consomment mes informations comme il faut, de manière bien authentifiée là, et pas identifiée. C'est vraiment deux choses vraiment spécifiques qu'on voit bien avec le produit d'Apple. Puis ben, pour ce qui est de tout ce qui est vie personnelle, ben, on martèle encore que c'est important. J'ai bien aimé... le fait de pouvoir utiliser plus des animojis, ben des mimojis, c'est Apple, c'est mimojis, je pense, ou c'est animojis, je ne m'en rappelle plus.
C'est les mimojis quand c'est mimoji. Les personnages.
Ouais, ben j'aime bien l'idée de... Ben, tu sais, hein, Guillaume, que j'aime bien avoir deux vies, ma vie personnelle puis ma vie sur Internet. Puis c'est un peu dans cette phase-là de pouvoir plus personnaliser ton emoji, ton emoji Apple pour que ça te représente, que ce soit plus personnel, mais que ce soit sans vraiment donner ton vrai visage. Mm-hmm. Ça, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et puis, ben le reste, on va en parler, mais j'ai hâte de discuter avec Léo de tout ce qui arrive au poste PC iPadOS.
On va y venir justement. Et alors, juste pour boucler du coup sur la partie vie privée, je te relais en quelques mots ce que disait tout à l'heure Léo sur le fait que, tu sais, on peut désormais dans iOS 13, il y a cette géolocalisation unique en gros, hein, donc on peut la demander, mais en gros elle n'est pas définitive. Et Léo, qui a commencé à tester iOS 13, disait que ce type de message se rajoute dans le temps à l'expérience utilisateur et peut un peu nuire à l'expérience utilisateur. Donc on va voir de quel côté est-ce que l'équilibre penche. Est-ce que c'est celui de la plus grande sécurité ou d'une plus faible facilité d'utilisation? C'est quoi ta vision, Matt? Cette multiplication de pop-up qui nous demande notre avis pour des raisons de vie privée, ça va pas nous gonfler?
Regarde, je fais juste le pendant avec le multifacteur que Apple a comme imposé dans les deux dernières années. Tu sais, quand tu dois te connecter à ton compte Apple, et puis que tu as un iPhone, ben là, il te dit « Peux-tu me donner les six numéros qui sont affichés sur ton iPhone si tu veux te connecter à iCloud.com ou si, par exemple, tu veux te connecter à un iPad au début ou ainsi de suite. » Moi, ce que j'ai comme ressenti des gens qui ne sont pas techies, qui ne sont pas dans le domaine de la technologie, c'est que c'est chiant, c'est lourd, mais ils aiment ça. Ils aiment ça parce qu'ils ont le sentiment que c'est plus sécure, que c'est mieux fait. Parce qu'au fond, tous les utilisateurs qui utilisent, qui ne sont pas très techno, qui ne sont pas full sécuritaire, ils savent que leur mot de passe, c'est de la merde. Ils savent que toutes ces choses-là, comment ils gèrent leur propre sécurité, c'est mal fait. Et ils aiment ça quand on leur offre les outils pour pouvoir le faire. Alors, d'avoir toutes sortes de pop-up qui vous disent « autorisez-vous ci, autorisez-vous ça », c'est bien. Par contre, est-ce que tout le monde va les lire comme il faut? Est-ce que tout le monde va les interpréter comme il faut? Si je me fie à mon père, il clique OK à n'importe quoi.
Et ma mère est persuadée que tout lien commercial est une arnaque. Donc, bon, il faut faire l'équipe.
Il faut mieux ça que l'inverse.
Oui, c'est mieux, c'est plus sécurisant. Bon, on suivra ça avec les différents tests. Alors, autre rubrique après la vie privée, c'est celle de la santé. Alors, je vais là aussi pas beaucoup m'étendre parce que, en plus, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'élément qui est le plus ressorti de cette WWDC, je trouve, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qu'on peut en tout cas mettre mettre en avant. C'est quelque chose qui, là aussi, hein, aurait pu être fait depuis super longtemps, sur la partie, en tout cas, saisie, parce qu'il y a des apps qui le font depuis très très longtemps. C'est le suivi des cycles menstruels. Sauf que là, il y a quand même de l'analyse derrière avec des informations contextuelles, avec les retards de cycle, par exemple, avec des éléments d'information autour des périodes de fertilité. Donc, il y a quand même de l'intelligence qui est apportée derrière la simple saisie des informations. Quand même un coup sympa de la part d'Apple qui aurait pu se contenter de le mettre sur WatchOS et donc sur l'Apple Watch, mais non, qu'il met aussi à disposition sur l'iPhone, cette bonne guerre. Et puis, j'ai vu aussi cet élément que je n'avais pas vu arriver, qui est celle de la mesure du volume sonore. Grâce à l'Apple Watch, donc pour nous dire quand on est dans un environnement trop bruyant. Là, ça m'a fait tilt parce qu'évidemment la dernière vidéo de Léo Duff, si vous l'avez pas vue sur sa chaîne YouTube, parle de la vue, du fait que on se massacre la vue à petit feu, enfin plus ou moins un petit feu d'ailleurs. Moi, je fais partie de ces victimes du son parce que j'ai des acouphènes permanents. J'utilise beaucoup trop les écouteurs, pourtant pas très fort, mais beaucoup trop souvent. Je pense que ce que tu critiques, enfin ce que tu soulignes comme dégâts qu'on peut avoir au niveau de la vue, Léo, dans ta vidéo, moi je me l'applique complètement aussi au son. Je sais pas si ça pourra vraiment aider parce que là c'est la mesure de son ambiant, mais voilà, c'était les deux trucs sur la santé, moi, que j'ai remarqué. Léo, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais relevé que j'ai pas vu, et est-ce qu'il y a, ça t'évoque des réactions?
C'est bien cette petite application là, Noise. Là, tu vois, je suis en train de tester. Là, quand je parle, je suis à 65 décibels. Donc, il me dit que.
C'est en dessous des 90 fatidiques.
Il me dit que ça pose pas de problème. À partir de 80, il dit bon, ça commence sur une période prolongée, mais il dit aussi la durée. Il dit par exemple, au bout de 20 minutes, ça peut endommager lui. Donc, c'est super intéressant. C'est une petite fonction qui se rajoute sur l'Apple Watch. Vous pouvez la mettre sur votre cadran ou tout simplement ouvrir l'application. C'est cool. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le redesign de l'application santé avec des informations qui sont, je trouve, plus pertinentes, qui sont vraiment mieux présentées. Et il y a aussi il y a highlights. Donc c'est des statistiques qui montrent, par exemple, sur les 90 derniers jours, en moyenne vous avez fait tant de pas, alors que sur l'année précédente vous faisiez beaucoup plus. Donc à ce moment-là, il va vous dire bon bah ce serait bien de marcher un peu plus pour rétablir un petit peu, pour reprendre ce rythme-là. Et je trouve ça extrêmement pertinent, et c'est ce qu'il faut faire en fait, parce que le problème jusqu'ici avec santé, c'est qu'on avait des données, on entrait des données, mais on savait pas quoi en faire. On était contents, on les avait entrées, mais derrière il y avait rien. Donc là, on commence un petit peu à tendre vers une application qui nous propose même des articles. J'ai vu dans l'application santé, il y a des articles qui nous conseillent, tout simplement. Donc c'est super intéressant. Moi, c'est vraiment un truc que je suis de très près, l'évolution de l'appli santé. Et là, on commence bien.
Ça fait aussi parfois peur, hein. Faut garder aussi du recul en gardant à l'esprit. Mais ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Faut toujours se méfier de toute façon des grandes marques, de savoir que Apple nous conseille sur le plan de la santé. Et évidemment, prenons le temps de consulter tout ça. Gardons du recul. Matt, qu'est-ce que ça t'évoque, les éléments de santé de cette conférence?
Pour la partie son, faut savoir que aux dernières nouvelles ici, selon une étude au Canada. Un enfant sur cinq maintenant souffre d'acouphènes. Alors, j'imagine que si on dit souvent que le Canada, c'est le 52e État des États-Unis, ça veut dire que ça préoccupe beaucoup les Nord-Américains, la santé auditive des gens. C'est bien, mais quand on vend des AirPods, je suis désolé Léo, je vais t'attaquer de frontal. j'y vais frontal. Mais quand on vend des AirPods qui ne couvrent pas bien l'oreille et qui fait que dans le fond, on a tendance à augmenter le volume de ces écouteurs. Je trouve que c'est un peu particulier de se préoccuper de la santé auditive des gens si tu ne fais pas des bons écouteurs qui sont en lien avec ça. Typiquement, si le sensor des décibels était bien placé dans les AirPods, là, on pourrait dire, tu fais attention, là, ça va, c'est pas bon. Puis, on sait aussi qu'au niveau des décibels, c'est pas forcément si c'est élevé. Si, ça peut être élevé, mais si c'est constant, c'est correct. Mais si c'est élevé et en plus que ça tape, ça bûche sur tes tympans, là, c'est moins bon. Alors, j'aime qu'on s'y attarde. Il faut s'y attarder. Il y a un problème de santé, j'allais dire nationale ici, par rapport à la santé auditive. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai pas vu au complet l'application santé, les nouvelles affaires, mais j'imagine que ça va dans le sens des recommandations qu'on peut faire maintenant, qu'il y a maintenant en fait dans l'App Store, et c'est vraiment, vraiment chouette. Tu disais, on stocke toutes nos données dans santé. J'aime les stocker dans santé. pour le moment, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en faire, mais ça m'arrive quand même d'aller regarder au niveau d'une année ou deux le nombre de pas que je faisais. Je vois, j'ai des périodes où je marche moins, où je marche moins fréquemment, en fait, où je suis moins actif. Et je comprends un peu certains états d'esprit que j'ai. Fait que moi, ça m'arrivait de le faire. Mais c'est sûr que là, si en plus, ben, tu as des rappels, puis tu as des analyses. Parce que dans le fond, on a mis les outils en place pour collecter. Maintenant, je pense qu'on est en phase de maturité, d'analyser, de faire des choses avec ça. Et c'est vraiment en phase avec l'esprit d'Apple. Je trouve ça vraiment chouette.
Mm-hmm. Ouais, c'est ce qu'ils ont commencé à faire déjà depuis quelques temps avec les photos, avec les souvenirs. Mais comme fait d'ailleurs Google Photos et comme ils vont continuer à le faire, on va en parler aussi tout à l'heure. On passe à la rubrique accessibilité parce qu'il y a, ça fait partie de ces quelques, bon, quand même wow effect que j'ai pu avoir, ou en tout cas j'ai vu quelque chose de très impressionnant sur lequel il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. C'est donc l'instruction à la voix pour macOS et iOS avec une vidéo qui est très bien faite et qui est bluffante si jamais les usages se confirment par rapport à ce qui est décrit. En gros, l'interface a été totalement penser, j'allais pas dire repenser, mais penser dans l'optique qu'on puisse l'utiliser intégralement à la voix. Et ça va jusqu'à la sélection de la photo, le partage, ça va jusqu'à évidemment la reconnaissance de notre voix et de ce qu'on dicte. Alors, sur ces éléments de voix, il y a malheureusement un passé assez compliqué pour le grand public, puisque les promesses sont toujours beaucoup, beaucoup plus élevées que la réalité, et on a bien souvent des déceptions. Alors, assez naturellement, par rapport aux réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est, en gros, est-ce que ça marchera aussi bien? Et, on ne sait évidemment pas, il va falloir plus de recul, mais j'ai trouvé en tout cas la promesse assez géniale. La vidéo est un peu bizarre parce qu'on voit que la personne qui souffre d'un handicap physique, donc dicte les instructions à son Mac et dicte même à un moment à son iPhone, donc les machines sont capables de comprendre qu'il change de contexte d'appareil pour envoyer un message. Alors j'ai pas trop compris pourquoi la personne avait besoin d'utiliser son iPhone pour envoyer un e-message au passage, je sais pas, c'était sans doute pour justifier le multitâche. Mais en tout cas, c'est plein de promesses et c'est à la hauteur des vidéos qu'on a de tous les concurrents sur tout ce qui peut se faire avec les intelligences artificielles et les instructions à la voix. Alors, est-ce que la réalité va être à la hauteur de la vidéo, Léo? Est-ce que tu l'as testé?
Non, j'ai pas du tout testé. J'aurais dû, parce que c'est vrai qu'en regardant la vidéo, je me suis dit, mais c'est exceptionnel. C'est sûr que la vidéo vend du rêve. Après, je vois pas trop de raison pour laquelle ça fonctionnerait pas, en fait. Faudrait que je teste ça.
Ouais, c'est plus sur le texte, peut-être, la reconnaissance des noms propres, des trucs comme ça, où il peut y avoir des soucis. Matt, une remarque sur la partie accessibilité, et sur notamment les instructions vocales, ou sur un autre sujet?
Ouais, ben en fait, tu sais, à chaque WWDC, quand Apple arrive avec des nouveautés, des fonctionnalités, des nouveaux usages par rapport au software, en fait, à la partie logicielle, à chaque fois, il y a des modèles d'affaires qui tombent. Il y a des entreprises que, ben, d'un seul coup, ils pourront plus vendre parce qu'Apple le fait. Ben, on va sûrement parler de la partie de déporter son écran sur iPad. On va parler aussi des vols sur d'avoir perdu son téléphone. Mais
du
pour
clavier.
La partie, exactement, oui. La partie accessibilité, je remarque juste que Dragon Naturally Speaking, qui est une application qui fait exactement ce qu'on a vu qu'il faisait chez Apple à partir d'un macOS, ben là, ça va être directement built-in à partir du produit. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et petite parenthèse, je travaille avec des personnes non-voyantes ou aveugles, tout dépendant des personnes, leur sensibilité, ils aiment se faire appeler d'une ou d'une autre catégorie. Et c'est juste stupéfiant ce que vous pouvez faire avec un iPhone ou un iPad quand vous êtes avec des problèmes de visibilité. Vous n'avez même pas idée à quel point juste un iPhone, ça vient de baisser le prix, le ticket d'entrée à une personne aveugle pour les technologies et pour Internet. Parce qu'avant, c'était toutes sortes de technologies, de claviers en braille, de choses comme ça qui sont compliquées à configurer ou ça prend des techniciens quand ça ne marche pas et ainsi de suite. Alors que là, tout vient de tomber drastiquement. Ben, je fais le parallèle exactement pour toutes les instructions vocales sur macOS qu'on a pu voir. Je trouve ça juste fabuleux, tout ce qu'ils font. La partie accessibilité pour les personnes qui ont des soucis, on ne peut que s'en réjouir. Ça fait juste comme agrandir la famille des utilisateurs. C'est juste merveilleux, moi, pour moi, cet aspect-là.
C'est hyper enthousiasmant. J'avais aussi rencontré une personne qui est aveugle et qui utilise justement aussi un iPhone au quotidien, et elle dit que c'est inconcevable d'imaginer avoir cette équivalence d'interactivité quand on est aveugle avec un smartphone, quand on est sur Android par exemple, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui avancent. Et il souligne
même pour un voyant. Hein.
Bon, attention, ne soyons pas trop partisans quand même. Mais il disait aussi que Apple était très à l'écoute, y compris par exemple même en France de manière triviale, mais très très accessible vis-à-vis de ce public-là pour intégrer les différentes remontées qu'ils peuvent avoir. Donc je crois que c'est vraiment un état d'esprit qui se témoigne. Autre rubrique, alors qui est moins directement concernée par la WWDC, mais du coup qui rayonne quand même beaucoup avec tout ce qui a été annoncé, c'est les usages grand public. Alors là, je vais faire la petite mitraillette et je vais en lister plein qui m'ont marqué. Évidemment, chacun à votre tour, vous pourrez compléter ou corriger ce que j'aurais manqué et réagir si vous en avez envie. Moi, un truc qui m'enthousiasme beaucoup sur la partie usage grand public, donc c'est le multicompte sur HomePod et Apple TV. Alors multicompte sur HomePod, c'est pas si évident. En tout cas, il reconnaît les différentes voix et il sait répondre au contexte. Donc, j'assimile ça à du multicompte. Mais en tout cas, sur Apple TV, pour moi, c'est quelque chose qui devenait presque intolérable. Et je trouve ça très bien qu'il l'intègre. Le mode sombre, si jamais on avait manqué que le mode sombre arrivait, désormais, je crois que tout le monde est au courant. Et il faut reconnaître que je suis évidemment très, très fan du mode sombre et que c'est très agréable sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils. Donc ça, c'est un point super positif. Il y a des évolutions d'app, et on l'avait déjà dit dans les précédents épisodes Tech Café, mais faire évoluer des OS comme iOS de la part d'Apple, c'est aussi faire évoluer les applications natives, avec Rappel qui, là tu le disais Matt tout à l'heure, les services tiers qui vont souffrir. Je pense que Things, qui est une application de gestion de tâches, va peut-être souffrir de la présence de Rappel dans iOS qui ressemble beaucoup à Things et qui est même mieux de ce que j'en perçois.
Parle pas mal de Things par contre.
Comment ?
Parle pas mal de Things aussi.
Ah, bon, on continue en parlant bien, même si Apple fait au moins aussi bien alors. Donc des petites évolutions sur les mails. Find My qui rassemble les applications Find My Phone qui ne permettait pas que de géolocaliser votre téléphone et Find My Friends, donc vos amis. L'application Notes qui prend encore une dimension supplémentaire avec pour moi des choses assez essentielles comme la reconnaissance d'OCR dans les pièces jointes et des choses hyper triviales mais qui sont évidemment bienvenues comme le partage de dossiers et la partage de notes en lecture seule. Plan, qui devient ouais. Un outil très, très, très crédible en termes de finesse, de niveau de détail, et surtout qui intègre, alors dans un premier temps aux États-Unis, mais surtout qui intègre une refonte de la remontée des erreurs. Alors Léo, toi qui as pu tester iOS 13, je ne sais pas si tu auras l'occasion de nous dire, mais je crois que c'est clairement le truc qu'il fallait corriger en ultime priorité dans Plan, c'est la possibilité de remonter toutes les erreurs de référencement de points mm-hmm. d'intérêt, à voir si ça va changer la donne. Une voix de Siri qui va être beaucoup plus naturelle, elle est intégralement synthétique mais fait plus naturelle, justement parce qu'on s'affranchit de toute la collecte de sons d'origine réelle pour en faire quelque chose de composé en fonction de ce qu'on veut lui faire dire, mais là la voix est intégralement générée, donc elle est plus naturelle. Et puis Siri est présent sur pas mal d'autres éléments dans les applications. Évidemment, un petit clin d'œil pour nous pour dire que Siri va recommander d'autres podcasts quand on écoute des podcasts avec Apple Podcasts. Youhou, c'est cool. Le clavier swipe, donc vous pouvez glisser pour composer vos mots. Là, les utilisateurs Android continuent à se gosser. des applications aussi sur Apple Watch avec le dictaphone qui est intégré, l'intégration des livres audio sur l'écosystème Apple, la calculatrice sur WatchOS, très cool. Et je dis pas ça que de manière ironique. De nouveaux cadrans qui sont toujours les bienvenus. Et puis il y a des éléments autour des AirPods avec la possibilité de répondre sans dit Siri. La possibilité pour Siri de vous dicter les messages quand on les reçoit dans les AirPods. Et j'avoue que ça aussi, je pense qu'à l'usage, ça risque d'être très très cool. Et puis quelque chose qui n'a pas été annoncé mais qui continue à se voir dans le code. Donc on peut attendre les annonces des prochains iPhones pour voir ça. À arriver. C'est les petits trackers qui étaient dans les rumeurs des actualités Apple de ces derniers temps. Donc des petits appareils, des petits objets qu'on pourrait greffer à d'autres objets pour les géolocaliser et pour pouvoir les attacher à ses clés, par exemple, ou à d'autres éléments importants. Alors, je suis désolé, ça fait un peu la mitraillette des news, mais malheureusement, c'est aussi ça la WWDC. Allez, on change un petit peu d'ordre pour la peine. Matt, est-ce que tu as des choses à compléter ou sur lesquelles tu voulais réagir?
On va mitrailler. Multicompte HomePod, Apple télé, c'est bien, mais pourquoi pas encore sur iPad? Je comprends.
Alors, c'est sur Mac en plus.
Ouais, c'est ça. Alors, on a macOS qui est multicompte, on a HomePod qui sera multicompte, Apple TV qui sera multicompte. Pourquoi toujours pas sur iPad? Bon, je veux pas râler parce que je suis vraiment content de le voir sur l'Apple télé. C'est à voir comment ça va se faire. Pour mes enfants qui veulent certaines applications, certains jeux, puis moi, je veux toujours mes icônes en premier rang, mais eux autres, ils changent tout le temps mes icônes. Bref, je suis vraiment content d'avoir ça. On va voir si ça va changer les choses.
Moi, excuse-moi, je te coupe, mais surtout qu'en plus, pour l'iPad, pour l'environnement éducatif, ça existe, le multicompte sur iOS, donc c'est quand même déroutant, même.
Ouais, c'est bon, dites-vous qu'il faut s'en garder pour la prochaine WWDC, fait que c'est normal, ça arrive peut-être l'année prochaine. Mois de sombre, ça va être salutaire pour nos yeux et ça va être salutaire pour nos batteries. Vraiment chouette pour ça au niveau d'iPhone. Par contre, encore une fois, il y a d'autres applications qui vont sauter parce que, comme tu disais, les évolutions d'app, il y a plein de nouveautés qui arrivent, notamment pour les tâches. Alors, on va sûrement en parler dans notre podcast sur le life hacking, mais les tâches et les rappels, il y a un gros bouleversement qui va se faire au niveau de la productivité pour ces applications-là. Ça, je suis vraiment, vraiment enthousiaste. L'évolution de Siri, va falloir en faire plus encore. Hein. On n'est pas arrivé.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Mais pour être dans l'écosystème Alexa et pour être un peu aussi dans celui de Google, je t'avoue qu'il y a des choses que je n'ai pas encore retrouvées qui sont un peu déplaisantes. On ne l'a pas partout. Ce n'est pas le même Siri sur ton téléphone que sur ton HomePod. Ce n'est pas le même Siri un peu partout. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Il y a des choses qu'elle ne répond pas bien. Par contre, oui, on a des affaires intéressantes. Ce n'est pas la demeurée qu'on veut bien le laisser entendre. Là. Pas du tout. Là. Mais quand même, au niveau de l'intégration d'autres services, Siri est limité là, quand on compare aux deux autres à côté. Ça, c'est sûr. Clavier swipe, content. Ça va être plus rapide. Apple Watch, on est aussi content d'avoir la calculatrice. C'était tellement con, mais ça va être vraiment tellement plaisant pour calculer certains trucs. C'est toujours dans la philosophie d'avoir des micro-tâches, des choses rapides qu'on peut faire sur l'Apple Watch. J'aime ça.
Ça vient de la mettre sur l'iPad maintenant.
Tu vois, il faut s'en garder pour la prochaine WWDC. Et puis les AirPods, ben, dit Siri, au lieu de taper. Moi j'ai encore les AirPods version 1 et je tape encore sur mon côté d'oreille et puis je peux parler à Siri. Maintenant, j'ai juste besoin de le dire. C'est sûr que j'ai hâte de l'avoir absolument.
Alors Léo, justement, alors tu voulais peut-être réagir en premier sur Siri, même si c'est pas, enfin bon, que ce soit en lien avec la WWDC ou pas, hein, d'ailleurs.
Oui, non, Siri a beaucoup de progrès à faire. Après, c'est vrai que dans mon usage, j'ai une Google Home, j'ai un HomePod et j'ai une Amazon Echo, je crois, donc avec Alexa.
Ouais. Et voilà, pas
la preuve. Et je ressens pas une différence d'usage en fait, c'est-à-dire que ça m'arrive peu de demander un truc à Siri et qu'il sache pas me répondre et que derrière je demande à machin là-bas la même chose et qui que ce soit différent. Donc vraiment j'ai pas un usage complètement changeant en fonction de ces appareils. Tous ils me permettent de faire peu de choses en fait. Donc voilà, tout simplement ils sont là pour des tâches qui sont très basiques et je leur demande pas plus et j'ai pas l'impression qu'il y en a un meilleur qu'un autre en tout cas dans mon usage. Ce que je voulais surtout dire par rapport à Siri, c'est qu'il y a un truc qui est passé un petit peu discretos, c'est le fait que Siri va pouvoir agir avec des apps tierces, donc par exemple Spotify, par exemple une app de podcast différente que de celle d'Apple. Et ça, c'est super intéressant parce que ayant un pod et détestant au plus haut point Apple Music, je suis sur Spotify et j'ai vraiment du mal à me servir de mon pod. En fait, sans la voix, c'est insupportable. Je déteste ce choix qu'ils ont fait. Donc ça va changer ma vie en fait.
J'ai pas suivi justement. Est-ce que ça veut quand même pas dire que Spotify est dispo sur HomePod, Léo?
Eh bien, écoute, ça devrait arriver normalement.
Bon, de toute façon, c'est une histoire de moment. Mathieu, c'est toi qui rajoutais CarPlay. On n'en a pas parlé, effectivement. Tu voudrais peut-être en donner quelques mots?
Ben oui, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, CarPlay, c'est de déporter un peu son iPhone directement dans l'autoradio du véhicule. Et l'avantage que ça a, c'est que ça prend toutes les notions de sécurité de main libre. En fait, typiquement, si vous voulez envoyer un SMS, vous ne pouvez pas, il faut le dicter. Si vous voulez en recevoir un, il faut l'écouter. Vous ne pouvez pas toucher l'écran ou quoi que ce soit. Le désavantage qu'il y avait avec CarPlay, qui opère encore avec CarPlay, c'est que c'est toujours les trois dernières applications qui sont affichées. Alors, typiquement, si vous allumez le GPS et que vous vous dirigez vers un endroit avec votre GPS et que vous voulez écouter après ça Apple Music, ben là, il faut switcher d'application. Là, il va y avoir une espèce de split view dans CarPlay qui va faire que vous pouvoir toujours avoir le GPS tout en choisissant votre musique ou en sélectionnant l'album qui vous fait plaisir. Alors ça, je trouve ça vraiment chouette parce que ça concrétise, puis ça enfonce encore une fois le clou sur le fait que les manufacturiers sont des mauvaises personnes d'interface. Ils nous ont fait suer pendant plus de 100 ans à nous mettre des boutons partout qui ne veulent rien dire, sans aucun standard, sans aucune intelligence par rapport aux interfaces. Et après deux itérations, CarPlay s'adapte comme il faut, et ça évolue bien sans avoir à acheter, je ne sais pas, un quelconque abonnement de téléchargement comme un GPS dans ton véhicule ou un quelconque remplacement d'autoradio. Je trouve ça vraiment chouette, grand public. Si vous n'avez pas CarPlay et que pour vous, c'est important de pouvoir continuer à faire votre vie au quotidien et rester connecté, envisagez d'y aller parce que ce que vous avez présentement dans votre véhicule qui est plutôt récente peut-être, c'est à des années-lumière de ce que peut faire CarPlay puis ce que va faire CarPlay avec le split view.
Mm-hmm. Ouais, c'est
juste. Excuse-moi, vas-y.
Non, vas-y.
Non, moi je voulais complètement changer de sujet, juste quelques petites choses qu'on n'a pas explorées. Ouais. Shortcut, qui a vu son fonctionnement un petit peu retravaillé, en fait, ça fonctionne de manière plus conversationnelle. Et il y a surtout l'automatisation qui arrive dans Shortcut avec des fonctions assez intéressantes, comme le fait que si j'arrive par exemple chez moi, je lui demande d'agir en conséquence, de mettre de la lumière, de mettre de la musique, etc. Ou encore si je plug mon iPhone contre un tag NFC. Donc ça commence à être super intéressant parce que le problème de Shortcut, c'est que jusqu'ici, c'était vraiment des raccourcis. En aucun cas, une app d'automatisation, tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'automatique. Là, ça le devient, donc c'est super intéressant.
Ouais, c'est cool que les déclenchements puissent se faire autrement que quand tu lances effectivement un raccourci. Mmh. Ça risque d'être un gros changement et c'est très chouette et ça continue à participer à cette ouverture que fait Apple. Décidément, que d'annonces qui font lever des verrous. Autre rubrique, et là on attaque un gros morceau. Je suis sûr que vous allez tous les deux avoir plein de choses à dire et donc je vais essayer d'être encore plus synthétique dans ma phase mitraillette avec une nouvelle l'annonce phare de ce domaine concernant l'iPad et du domaine de la tablette et de l'ordinateur ou de l'ordiblette, c'est qu'il y a une nouvelle version de iOS. Il y a une espèce de scission dans la famille des iOS et il y a désormais donc iOS pour l'iPhone, l'iPod Touch et iPadOS qui est, comme son nom l'indique, dédié à l'iPad. Et ils ont carrément nommé cette nouvelle version de l'OS dédiée à l'iPad parce qu'il y a désormais trop de petites différences qui, en tout cas c'est la philosophie qu'on peut en interpréter, il y a trop de différences qui ne justifient plus le fait de développer des fonctions communes entre l'iPhone et l'iPad. La mise en commun des différentes fonctionnalités de l'écosystème Apple sont maintenant avérées et ils ont besoin de plutôt repousser les limites de ce qu'on peut faire avec une tablette pour encore plus convaincre les gens de laisser tomber leur ordinateur pour le remplacer par un iPad. Et ça se traduit dans l'iPad par notamment un meilleur multitâche avec une gestion un peu plus évoluée des fenêtres, avec la possibilité de faire basculer ces petites fenêtres qu'on a sur le côté droit ou gauche d'ailleurs de l'écran sur l'iPad quand on fait une forme de multitâche. Il y a cette fameuse et tant attendue gestion des périphériques USB pour la lecture de fichiers, donc les clés USB, les cartes SD, les disques durs externes. On va pouvoir lire et écrire sur ces supports-là. Formidable. Au passage, fichier qui ressemble de plus en plus au Finder devient vraiment vraiment quelque chose d'assez avancé. C'est vrai que c'est, on a vraiment l'impression qu'ils auraient pu le renommer Finder pour iOS ou de renommer Finder en fichier sur macOS, tellement les deux se rapprochent. Et donc ça, c'est un verrou énorme qui saute pour convaincre, je pense, les personnes d'utiliser ça en tant qu'ordinateur. Safari qui est nativement en mode ordinateur. Alors pour faire super simple, avant, le comportement de Safari sur iPad était le même que celui qu'il y a sur iPhone, donc il se faisait passer pour un mobile, et désormais il est capable de se faire passer pour un navigateur d'ordinateur et de réinterpréter les informations qui lui sont retournées pour se comporter comme un vrai ordinateur. Un exemple évident de ce que ça permet de faire, outre le fait d'afficher les pages web comme si on était sur un ordinateur, c'est d'utiliser des services comme Google Docs, qui était avant inimaginable, il fallait forcément passer par l'application. On parlait tout à l'heure des services qui meurent avec les innovations, enfin plutôt les évolutions d'Apple. Ce sera le cas de Duet et d'un autre acteur dont j'ai plus le nom en tête, mais qui permettait d'utiliser
Luna
l'iPad.
Display.
Comment ?
Wacom.
Luna Display, non ?
C'était Luna Display, effectivement, et par extension, comme tu dis, Matt, pour d'autres évolutions qu'on va lister, Wacom aussi, qui sont des acteurs qui vont pas mal souffrir, parce que en tout cas, on va pouvoir utiliser l'iPad comme écran déporté, ou comme écran supplémentaire au Mac, et on va pouvoir aussi s'en servir comme d'une tablette graphique, donc effectivement à la Wacom, pour les iPads qui sont compatibles avec Pencil, et reproduire, et intégrer même, comme c'était le cas pour les tablettes graphiques, avec le Pencil, la possibilité de partager des dossiers dans fichiers, des nouveaux gestes pour le copier, couper, coller, annuler, qui on peut pas dire qu'ils aient convaincu tout le monde de par la gestuelle. Tu nous diras peut-être, Léo, si tu as l'occasion de les tester. Mmh. Moi, je reste un peu dubitatif. On va voir. La mort d'iTunes, qui a été amenée de manière très sympa par Craig Federighi, et ses yes. touches d'humour sont toujours les bienvenues, je trouve.
C'était drôle.
Ouais, c'était drôle. Il était bon.
Il a été très bon. En gros, ouais. Il disait qu'iTunes a cumulé avec le temps plein de fonctions et qu'ils ont envisagé d'en rajouter encore plus, notamment le fait que ça puisse gérer les mails. Et évidemment, il a décrit après que c'était qu'iTunes était terminé sur l'environnement Apple et que c'était remplacé par musique, podcast et Apple TV, donc trois applications avec les services séparés. Les claviers et les souris qui sont désormais utilisables et ils sont considérés comme des fonctions d'accessibilité. Pour
vous remarquerez que la souris, c'est dans les fonctions d'accessibilité, comme tu dis, pour des personnes qui ont des handicaps. Hein, on se rappellera.
Ça va donner de l'eau à ton moulin, ça. Et voilà, un peu tout ce qu'on peut dire sur les grosses évolutions. C'est un énorme morceau.
Il y a aussi les manettes de PlayStation oui. et de Xbox qui sont compatibles.
Je voulais en toucher un mot sur la partie matérielle, mais t'as raison,
autant
parce que ça
moi.
Concerne pas que l'iPad. Non, t'as raison. Et ça a été un peu mon frisson aussi, mais on va revenir dessus juste après. Léo, justement, partie iPadOS.
Eh bien, écoute, j'attendais énormément de cette conférence, justement pour ce moment, parce que ça fait des mois maintenant que je partage ma vie avec mon iPad Pro et que c'est l'amour fou. Mais même moi, vraiment, je n'y croyais pas. Ça faisait des années que je me disais qu'un iPad, ça me servait à rien parce que c'était un pont entre mon Mac et mon iPhone. Bah, depuis, c'est mon Mac qui s'est jeté du pont parce que je l'allume quasiment plus, sauf vraiment quand j'ai une grande nécessité, mais c'est de plus en plus rare. Et iPadOS 13 qui s'affiche comme iOS 13 d'ailleurs sur mon iPad, donc je ne sais pas trop s'il y a un bug ou quoi, vient confirmer ça. Donc c'est des petites améliorations, mais qui améliorent tellement le confort. Le simple fait qu'on puisse ouvrir une application sur deux fenêtres différentes, ça je l'attendais vraiment, parce qu'en fait ça m'arrive souvent de prendre des notes dans mon application de prise de notes qui hébère et de vouloir en ouvrir deux, et c'était impossible. Et à ce moment-là, je devais aller sur mon Mac juste pour ça, parce que je pouvais pas en ouvrir deux simultanément. Il fallait que j'aille sur ma note et que j'aille sur l'autre note, que je la quitte, etc., que je revienne ensuite sur la note pour faire mon copier-coller. C'était insupportable. Donc là, maintenant, c'est possible. En ce qui concerne le copier-coller, justement, les gestes, copier-coller, je l'ai très vite pris. Honnêtement, c'est super simple. Le reste, j'ai même pas testé parce que je me souviens pas de comment on fait. Je t'avoue, mais en tout cas, le copier-coller, non, vraiment, tu prends le réflexe très très vite. En tout cas, pour moi, ça fonctionne complètement. Finder, C'est pareil, ça ajoute des trucs qui vraiment rebutaient les gens qui avaient un Mac et qui voulaient pas passer sur iPad. Bah, c'est le simple fait, en fait, de pouvoir mettre une clé USB, ça change énormément de choses. Le simple fait de, si je veux ajouter des photos à Lightroom, j'ai pas à mettre d'abord mes photos sur ma galerie photo d'iCloud et ensuite les envoyer sur Lightroom. Là, je peux direct les mettre dans Lightroom. Donc, c'est des petits raccourcis. On gagne toujours un petit peu de temps, on gagne toujours un petit peu de voilà. C'est simplement plus confortable et ça rend l'usage de l'iPad encore plus simple et je suis encore plus amoureux.
Ça fait plaisir. Je reviens juste sur l'élément du double fenêtre de la même app. Effectivement, pour être bien clair, on a effectivement la possibilité de lancer côte à côte deux instances de la même app. Mm-hmm. Donc, par exemple, Notes, mais ça peut être le cas de Word ou de n'importe quoi, pour travailler sur deux documents de la même app en parallèle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avant la WWDC, j'avais demandé aux gens sur Instagram ce qu'ils attendaient le plus. Et une personne qui m'a dit, moi, ce que j'aimerais le plus, c'est pouvoir installer deux fois la même app. Je lui ai dit, mais c'est compliqué Google, je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que tu veux faire? Et finalement, il y a plein de cas où il justifiait son usage et c'était très malin, notamment le fait de pouvoir installer, pourquoi pas, deux fois WhatsApp avec des numéros différents. C'est loin d'être débile. Je crois que l'approche là, de lancer deux instances en parallèle d'une même app sont déjà une belle étape.
Ouais, complètement.
Matt, iPadOS.
Écoute, c'est à quel point je suis amoureux de l'iPad et de toutes les technologies d'extrême proximité. Moi, c'est vraiment... l'évolution que j'attendais. Je suis vraiment heureux de voir. Un truc, là, mais vous allez trouver ça con, mais qui me fait vraiment plaisir, c'est, tu sais, quand tu es sur un ordinateur, tu fais pomme Z ou contrôle Z, ouais. Tu fais un undo sur iPad, il fallait secouer. Alors, combien de fois je secoue pas mon iPad parce que ça me fait chier de secouer mon iPad, puis que j'envoie quand même la connerie que j'ai écrite pour dire « il comprendra et c'est pas grave ».
C'est donc tous les messages que j'ai pas compris, c'était ça.
Exact. Combien de fois puis les gens, tu sais, je veux dire, c'est complètement rédhibitoire de secouer ton iPad pour faire annuler la dernière commande de ce que tu as fait. Faire un annuler avec trois doigts, il était temps. Je suis vraiment content de l'avoir. Les gestes, copier-coller, je suis content d'entendre Léo qui dit que tu l'as adopté. Hein, ça va bien de le faire comme ça avec des doigts.
Oui, c'est... Et puis très rapidement, en fait, quand j'ai vu la keynote, ça m'a parlé en fait tout de suite. Le problème, c'est que quand j'ai vu les autres gestes, je me suis dit, oula, on va y aller étape par étape. Mais le copier-coller, en tout cas, ouais, c'est extrêmement simple. Et le fait aussi qu'ils aient rendu plus simple le fait de sélectionner du texte, ça marche plutôt bien. J'ai quelques bugs, mais bon, on rappelle que c'est une bêta, mais ça marche très bien.
Et c'est vrai que la pauvre personne, en démo, je ne saurais pas dire qui c'était, hein, mais se galérait à déplacer le curseur. C'était difficile à vivre.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, et puis j'imagine le moment de stress intense en se disant « je vais me faire foutre à la porte ».
On se sent mal pour eux quand ça arrive.
Oui, c'est ça. Mais oui, ben oui, absolument. Alors, pour ce qui est des tâches, je suis vraiment content parce que l'iPad permet deux choses. Permet d'avoir une utilisation super simple pour monsieur, madame, tout le monde et maintenant, de plus en plus, une utilisation avancée où on peut faire du multitâche, où la productivité est dans le cœur de métier maintenant de l'iPad. Et ce qui fait que des outils d'extrême proximité comme ça restent dans l'esprit même de la simplicité, c'est-à-dire tu as une vitre en avant de toi, puis avec tes doigts, sans autre forme d'interface, tu es capable de faire des choses très avancées et très poussées maintenant au niveau de l'édition ou au niveau de l'écriture. Il y a quelques applications qui manquent, hein, on le sait, en tant que créateur de podcast, mais aussi dans certains développements, ça serait bien d'avoir sur l'iPad Pro, mais vraiment, vraiment très enthousiasmé de voir ce que j'ai vu au niveau de l'iPad, puis d'iPadOS. C'est logique parce qu'il commence à avoir plus grand-chose qui ressemble à iOS sur iPhone maintenant, au niveau des gestes. Ce que j'ai aimé, puis ce qu'on prend naturellement quand on a un iPhone X en montant, c'est de swiper d'une application à l'autre. Là, vous allez pouvoir le faire pour les applications plein écran, mais vous allez pouvoir le faire aussi sur les parties fenêtrées splittées. Je trouvais ça super, vraiment, vraiment cool au niveau de iPadOS. Et puis, comme je disais, de plus secouer mon iPad, je me réjouis.
Un truc qui est un peu perturbant au début, les icônes sur le springboard sont plus petites. Voilà.
Ah, oui. Ok.
C'est pour laisser de la place aux widgets, on peut rajouter des widgets.
Exactement, sur... exactement. Bon, en fait, les widgets qui étaient sur une page dédiée, qui était beaucoup trop grande pour simplement des widgets, sont directement sur le springboard.
Et qu'on va pas toujours souvent voir quand même.
Exactement.
Dans la partie négative, par exemple, ce qui me réjouit moins, c'est le fait que je comprends pour les grands créateurs au niveau des photos, au niveau des vidéos, mais d'accéder à un système de fichiers qui m'a l'air, a priori, aussi complexe que sur un ordinateur, je trouvais qu'on avait réglé le problème avec iOS, c'est-à-dire tu ouvrais l'application puis tu voyais juste les fichiers que tu avais d'affaires à voir. Là, tu vas voir à peu près n'importe quel type de fichier. J'ai peur que ce soit déroutant pour certains. C'est peut-être juste l'aspect que je trouve un petit peu brouillon par rapport à fichier, à Finder sur iPad. Mais Léo, toi, est-ce que tu l'as utilisé cette partie-là ou pas encore?
Très peu, très très peu. Moi, je suis juste un petit peu, je suis allé voir un petit peu. Il y a des fonctions intéressantes comme le fait de simplement pouvoir dézipper des fichiers, ouais, etc. C'est des choses qui, c'est tout bête. Je le fais très rarement, mais ça m'est arrivé avec l'iPad de devoir télécharger une application exprès pour ça. Et c'est à peu près la pire expérience qu'on puisse avoir avec un appareil. Hein. Donc c'est des ajouts que j'utiliserai peut-être peu. Effectivement, ça peut paraître un peu brouillon, mais au final, je pense que les applications qu'on installait exprès pour ces usages l'était encore plus, donc au final c'est pas tant un point négatif que ça, je pense.
C'est un fil conducteur, hein. C'est la mort de beaucoup d'applications finalement.
Ouais. C'est terrible, hein. Je buvais un coup pendant la keynote à chaque application décédée.
Et t'étais sous à la fin.
À suivre la fin. C'est pour ça qu'il parlait pas des développeurs tout à l'heure. C'est que t'es pas allé jusqu'à la fin. Je comprends mieux. C'est, je crois que ça résume bien aussi ce qu'on disait en intro, à savoir que Apple tend à lever plein de verrous qu'ils ont eux-mêmes installés, et ça fait évidemment rigoler les personnes qui ne jurent que par les crémeries adverses. Sauf que cette approche, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, elle convainc, parce que typiquement pour le cas de la gestion des fichiers, si je réagis à ce que vous dites, il y a quand même pas la vue sur toute l'arborescence du disque dur, tu vois, Matt. Quand tu lances aujourd'hui macOS, effectivement, t'as des artifices qui font que naturellement on va pas t'afficher par défaut les premiers répertoires à la racine de ton disque dur, qu'on va plutôt t'afficher tes répertoires courants, mais ça, en passant par l'autre optique, c'est-à-dire d'avoir eu d'abord une vue trop limitée des fichiers et de l'ouvrir après par la suite, j'ai le sentiment que ça arrive mieux à convaincre les gens. On verra s'il y a une véritable adoption sur cette application fichier.
Mais quand on voit la partie tablette de ce que fait Apple au niveau professionnel maintenant, je ne sais pas comment ils se sentaient du côté de chez Surface Pro. Je ne sais pas s'ils ont bien aimé la conférence, mais j'aurais peur à leur place, parce que quand on parle de vraies tablettes de productivité, je pense que là, ça, c'en est vraiment une au niveau des gestes où ça devient très, très simple.
Il n'y a pas de concurrence, là.
Non, absolument plus, là, plus du tout.
Là, c'est terminé.
J'évolue parmi plein de graphistes, notamment à mon boulot, et puis on peut suivre plein de personnes, hein, qui sont dessinateurs. L'iPad est devenu un élément incontournable. Wacom l'était beaucoup, mais on voit que ça va commencer à prendre du plomb dans l'aile. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Matt, on peut aussi brancher cette news. Je sais pas si tu l'as fait exprès. Si tu l'as fait exprès, merci beaucoup. De la présentation en interne chez Microsoft du projet dit la tablette Centaurus, qui est ce projet qu'on a vu apparaître de par plein de rumeurs, jamais visuellement, mais par des descriptions d'espèces justement de tablettes avec deux écrans qui se font face, qu'on peut ouvrir comme un livre, qui aurait donc été présenté en interne, et il y aurait eu des longues files d'attente. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de qui remporte de l'engouement, hein. Ça veut peut-être juste dire qu'il y avait beaucoup de personnes pour le voir, mais on a peine effectivement, quand on voit ce que fait Apple pour l'aspect matériel et en même temps logiciel, parce qu'il faut vraiment penser les deux, pour une solution de type tablette pour la productivité. Qu'est-ce que pourrait apporter un autre acteur? Je vois bien, hein, tout ce que fait Chromebook, tout ce que fait Google, tout ce que fait Microsoft de son côté avec Windows. Il y a des choses très sympas, mais aucun ne remporte autant d'adhésion et n'arrive à autant progresser. On continuera à suivre le match. Évidemment, vous savez à quel point ça nous passionne. Dernière rubrique de cette revue de la WWDC, avec une partie matérielle. Alors bon, Léo, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, mais moi ça m'a fait des petits frissons, mais tu vas pouvoir revenir dessus. En gros, on pourra utiliser des manettes de Xbox et de PlayStation 4 avec l'Apple TV. Et puis, on va aussi s'attarder un petit peu sur le nouveau Mac Pro, qui est la révélation qui a dû faire frémir les industriels de l'informatique, de par les possibilités que ça offre en termes de puissance. On reviendra dessus, hein, je pense d'ailleurs, notamment avec Guillaume Poggiaspala pour l'analyse de ce que ça permet et en quoi c'est une évolution sur le plan des performances, parce que c'est une vraie évolution avec le nombre d'écrans 6K qu'on peut brancher en parallèle, le nombre de traitements qu'on peut faire en même temps. Ce sont des monstres de puissance qui s'annoncent devant nous, qui sont pas du tout dédiés à faire tourner les derniers jeux en ligne, mais qui sont plutôt dédiés pour les entreprises qui investissent avec un amortissement comme ils le font pour des véhicules, ils le font aussi pour ce type d'outils, et là ça répond à ce type de, d'enjeu d'entreprise avec des prix d'entreprise. Donc finalement je suis pas certain que ce soit très très intéressant de les détailler, il y a quand même un élément sur lequel on va s'arrêter. Un nouvel écran qui est effectivement un monstre d'affichage, technologie LCD, mais paradoxalement une technologie LCD de haut vol avec des évolutions très importantes, notamment sur les angles de vue, avec l'affichage des contrastes. On se demande pourquoi c'est pas du LED. Ils arrivent à faire des choses assez impressionnantes. Une annonce qui a quand même lancé le froid de la WWDC à l'annonce de l'Apple du pied de cet écran. On a senti hein, que les développeurs, ils avaient envie de huer, mais ils avaient dû tous recevoir le briefing avant de surtout pas huer. Donc de $999, le pied de l'écran. Alors, il permet plein de choses, hein, mais ça reste un pied. Et puis aussi, les roulettes optionnelles, pour lesquelles, là aussi, on a pas encore de prix. Donc, il y a tous les éléments d'accessoires sur ce Mac Pro qui sont proposés et pour lesquels on n'a pas les détails de prix. C'est quand même une réponse qui était celle d'une forte attente de la part des industriels de l'informatique qui avaient besoin de puissance, qui avaient besoin de modularité, et ils n'avaient pas eu satisfaction avec les précédentes itérations du Mac Pro avec la batte poubelle qui n'avait clairement pas recueilli l'adhésion de la part des pros qui en avaient besoin. Donc j'imagine que là ça va répondre à leurs attentes, à condition effectivement qu'ils aient des plans de financement à la hauteur de leurs envies. Bah, tiens, Léo, en réaction par rapport aux manettes et sur l'aspect un peu matériel quand même au sens large.
Bah les manettes, j'ai testé sur l'iPhone, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, pas grand chose à dire. Il suffit de connecter en Bluetooth et puis après, faut juste que le jeu soit compatible, ce qui est pas toujours évident. Pour le Mac Pro, c'est délicat. Comme tu l'as dit, ça fait des années que on dit que Apple ne s'intéresse plus aux pros, et c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup montré l'inverse ces dernières années. Là, je pense que clairement ils inversent la tendance. Il suffit de voir ne serait-ce que les specs, même si j'aime pas beaucoup ça de la machine. Alors le problème du Mac Pro aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de le comprendre.
Prochaine vidéo ça.
Ah ouais, le problème avec le Mac Pro. Le problème, c'est que c'est très compliqué de le comprendre parce qu'on n'est pas, là, pour la plupart, on n'est pas la cible de ce produit.
Ouais, c'est ça.
Et quand on n'est pas la cible d'un produit, c'est très difficile de le comprendre, surtout quand il approche des prix comme ça. Je crois que c'est $6,000 minimum. Plus après, il faut rajouter le pied si on le souhaite à $1,000, etc. Bon, voilà. Je pense que c'est pas un produit qui est excessivement cher pour ce que c'est, parce que il a des specs qui sont incroyables. L'écran est juste fabuleux, du moins il a l'air fabuleux. Et quand on regarde un petit peu dans l'industrie du cinéma, etc., ce genre de matériel coûte normalement bien plus cher. À mon avis, ils ont un peu, entre guillemets, cassé les prix. Et je pense qu'ils essaient de rentabiliser un petit peu tout ça avec du matériel comme par exemple le pied de l'écran qui coûte $999, qui n'est pas obligatoire, qui est optionnel. Ouais. Sinon, vous devez acheter l'adaptateur à $200, je crois, qui vous permet de le mettre sur n'importe quel pied. À mon avis, ils essaient de rentabiliser un petit peu la chose comme c'est ça, possible, ouais. Parce que c'est pas si cher que ça. Je sais que c'est très difficile à entendre comme discours, mais il faut bien comprendre que les professionnels, ce genre de matériel, c'est une aubaine pour eux. S'ils peuvent gagner ne serait-ce que quelques secondes parce qu'ils n'ont pas à faire un petit rendu pendant qu'ils font du montage sur Final Cut en 8K, parce que sinon ça va laguer, s'ils peuvent juste gagner ces quelques secondes-là, c'est hyper intéressant pour eux, donc ils mettent les moyens.
Bah, l'exemple aussi qui est assez, je pense, parlant, c'est là en l'occurrence pour les développeurs, quand tu crées une app pour un écosystème Apple et que tu as le rendu en live de ce qui va se passer sur un iPhone, un iPad et un Mac, et qu'en temps réel ça se met à jour, j'ose même pas imaginer le temps que ça peut faire gagner, effectivement, c'est assez incroyable. Au passage, pour les manettes, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas parlé de la manette de la Nintendo Switch Pro, que je trouve absolument géniale et qui aurait très
bien. C'est dans ton titre, Apple TV compatible avec les manettes phares de gaming.
Salaud. Matt, une réaction sur le matériel Pro qui a été annoncé peut-être, sur le matériel en général.
Ben, au niveau du matériel Pro, le Mac Pro, on peut pas le comprendre. Là. C'est le principe du syndrome de la presse hydraulique. une grosse presse hydraulique industrielle, on la comprend pas. On aimerait l'avoir hein, pour écraser des canettes, pour écraser plein de trucs, mais c'est pas à nous. Ça s'adresse pas du tout à nous. Alors, c'est chouette. Alors, deux trucs. Au niveau des partenaires matériels qu'il y a ici à Québec, il y en a quelques-uns, ils sont très contents parce que l'ancien Mac Pro permettait pas d'ajouter, d'extensionner beaucoup de trucs. Et les partenaires matériels historiques, là, outre les Apple Store, vous savez que vous pouvez acheter des appareils Apple ailleurs que des Apple Store. Et il y a aussi des artisans qui sont avec Apple depuis des années et qui monte certains appareils industriels ou pour des grosses compagnies, les Mac Pro typiquement, un peu custom, et eux autres ne pouvaient plus faire grand-chose avec le Mac Pro, et là, ils sont très contents, ils ont le sourire. Design, on peut juste dire, ben Johnny Ive est revenu chez Apple pour le Mac Pro. On est content. Il a retrouvé dans le catalogue Brown quelque chose qu'il n'avait pas copié, et là, il est content. Il a fait quelque chose avec le Mac Pro. Non, je blague. C'est vraiment... C'est du design industriel, c'est vraiment chouette, j'aime ça. Le fait qu'on peut ouvrir le Mac Pro et qu'on peut tout manipuler, changer les pièces dans 360, ben c'était tout con à faire. Hein. C'était juste un capot, une cloche qu'on mettait sur un poste. Et maintenant, ben, Apple l'a fait. Puis vous allez voir, dans 6 mois, tout le monde va être comme ça parce que tout le monde va dire on peut modifier à 360 mon PC de gamer. Ça va tout arriver, c'est sûr sur ce. Le pied de l'écran... Je ne sais pas s'ils ont vraiment... tu sais, si tu vas chez Ergotron, qui sont une compagnie typiquement faite pour des pieds d'écran, c'est quand même assez cher. Je ne sais pas s'il y en a à 1 000, mais il y en a à plusieurs centaines de dollars chez Ergotron.
Oui, c'est cher. Après, moi, j'attends l'explication de quelqu'un, en fait. J'attends l'explication d'un spécialiste, parce que pour l'instant, c'est difficile de se faire un avis. Et en fait, j'ai vu tout le monde s'offusquer un petit peu de cette info en disant que c'était un peu ridicule, etc. Il n'y a qu'à voir, en fait, la réaction des développeurs pendant la conférence. Alors, peut-être que ce n'est pas les gens les plus spécialisés dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite vague de rire et on a senti que le présentateur, je ne sais plus qui c'était, a vite repris le fil conducteur. Hein.
Mais ce qui me fait rire, c'est que là, on a eu un très bon repas, 7 services, tout était parfait. Mais à la fin, au niveau du café, il s'est passé une connerie qu'on a reçue à l'addition. Et on est marqué par ça. Et pourtant, tout le repas était parfait. Mais le café, le petit sucre était mal mis et puis on n'est pas content. Le pied, je pense que c'est juste ça. C'est anecdotique. Je pense honnêtement pas que Apple veut se refaire au niveau matériel avec un pied à 1000 $. Je pense, en tout cas, je ne suis pas d'avis. Mais bon, à voir. L'adaptateur VESA, qui est à 200 $, je trouve ça pas malhonnête par rapport à ce que ça coûte un bon adaptateur VESA. Ce qui est chouette, c'est que maintenant, les écrans Apple sont compatibles comme il faut avec tous les autres types de pieds. Moi, ça, je trouve ça chouette. Pour les manettes, c'est cool. De la minute où vous en avez déjà à la maison, si vous n'en avez pas, ben, la Nimbus qui est vendue au Apple Store va très, très bien aussi. C'est comparable à ce qui se fait chez PlayStation et ainsi de suite, mais ce qui fait que tout va être compatible maintenant pour les manettes. Puis, ben, l'écran, ils l'ont dit dans l'annonce. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que Sony, mais apparemment que des écrans de cette qualité-là, ben, ça coûte plus que 6 000 $. Alors, c'est très, très cohérent. Et puis, je suis content pour tous les partenaires Apple historiques qui offraient des Mac Pro custom. Ils vont pouvoir recommencer à gagner de l'argent avec ces Mac Pro-là. Et puis, je trouve le design vraiment très, très beau.
Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour du coup avec cette rubrique matérielle de l'ensemble de la WWDC. Plutôt que de vous proposer de faire un dernier tour de piste, je vous propose qu'on fasse un petit tour du côté des questions et réponses. Alors, je vais vous donner un peu des coulisses. Je ne sais pas ce qui m'a pris, une fois de plus. J'ai proposé aux gens de répondre en story Instagram, de nous poser des questions par rapport à cet épisode. Et au début, ben voilà, moi, je suis habitué. Hein, quand j'envoie ce type de trucs avant un podcast, j'ai 2-3 questions, souvent une ou deux pertinentes, donc je suis content. Et là, Léo a eu la bonne idée de le partager. Et évidemment, comme Léo a sensiblement plus de followers que moi qui me suivent, eh ben, j'ai été noyé sous les questions. Donc je me suis fait prendre à mon propre piège. J'ai essayé de les prendre rapidement pour celles qui méritent qu'on s'attarde à y répondre. Parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on a déjà traitées dans le développement de cette WWDC. Est-ce que vous pensez que 3D Touch sera absent sur les iPhone 11, dit Zoé B? Oui, Matt, Léo?
Oui, malheureusement, oui, parce que on le voit, ça se concrétise. C'était la rumeur qu'il y avait depuis quelques mois. Et en effet, quand on installe la iOS 13, on se rend compte que une app met plus de temps avant qu'on puisse la supprimer. Il faut maintenir vraiment longtemps avant de pouvoir supprimer une app, tout simplement parce que si on maintient un peu moins longtemps, il nous propose en fait les fonctions qu'on a nativement avec 3D Touch. Donc je pense en fait que c'est même sûr que toutes ces fonctions vont être natives sur tous les appareils, même qui n'ont pas 3D Touch et même qui n'ont pas, comment ça s'appelait, Taptic Engine, quelque chose comme ça, sur l'iPhone XR.
Haptic Touch, je crois.
Haptic Touch, quelque chose comme ça, ouais, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais du coup, tous les iPhones vont y avoir accès, donc je pense que c'est un message clair. Et à mon avis, sur les prochains iPhones, on n'aura pas 3D Touch et beaucoup de gens n'auront même pas eu le temps de le tester.
Matt, tu plus sois?
Ben, je plus sois, puis j'aime pas 3D Touch. J'enfonce toujours l'écran. Oh, mais j'aime pas parce que j'ai toujours la sensation que je vais péter quelque chose. Parce que tu sais, mon 3D Touch à moi, Guillaume, il doit être différent de ton 3D Touch à toi. Tu comprends la pression que j'ai dans les mains?
Tu peux le régler.
J'ai peur. Ben, ma main, je peux pas la régler. C'est ma force. Mais non, je trouve ça... C'est malheureusement, c'est comme Dashboard sur macOS, ça va disparaître. C'est des choses qui étaient des bonnes idées, mais finalement, les gens n'ont pas adopté.
Bon, il faut... Ouais, c'est marrant. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'avec la disparition de 3D Touch, je ne vais plus jamais utiliser les fonctions qu'ils proposent, en fait. C'est-à-dire que jusqu'ici, à chaque fois que je voulais envoyer un message, par exemple, la plupart du temps, c'est à mes trois derniers contacts ou trois contacts fréquents. Et à chaque fois, je faisais un 3D Touch et je cliquais directement sur le nom de la personne et ça m'envoyait, voilà. Si je dois attendre à chaque fois 1 à 2 secondes pour que ça m'affiche ça, je ne vais plus jamais le faire. Alors que 3D Touch, c'était vraiment simplement une pression et c'était extrêmement rapide.
Et c'était aussi rapide qu'un clic droit, et à la fois en termes de réaction et d'habitude. Est-ce que l'écran pourra être utilisé avec un MacBook Pro, par exemple? Je crois que oui, Jules Gérardin. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être utilisé.
Oui.
C'est de l'affichage avec de la bonne résolution. Il faut une bonne machine derrière. Je sais pas si tous les appareils pourront en profiter, mais en tout cas pour un MacBook Pro, je pense que c'est bon. Je passe sur que pense Léo Duff de iPadOS. Je pense qu'on a répondu. la mise en page d'Apple Music change-t-elle? Pas forcément, mis à part l'intégration du mode sombre. Un peu, Léo.
Il y a aussi le karaoké.
Les
paroles qui défilent, j'ai testé aussi, c'est vraiment super bien fait.
Ah oui, clairement, c'est le killer feature sur Apple Télé. Apple Télé, là, avoir Apple Music, c'est chouette parce que vous avez tout l'aspect vidéo, mais pour la musique normale, il n'y a pas grand-chose à part l'album qui est affiché. Là, si en plus vous avez les paroles, c'est vraiment, vraiment chouette. On l'avait oublié, effectivement.
Ouais, et toi, tu l'as aussi. Et l'iPhone aussi. Hein.
Ah, OK, c'était bon, parfait.
USR Ala qui dit: le support de la souris est-il vraiment nécessaire sur l'iPad? Je ne vois pas du tout l'utiliser. Bon, je crois qu'on a répondu en disant que c'était une fonction d'accessibilité. Pourtant, il y en a plein qui attendent d'utiliser ça pour du gaming, ne serait-ce que parce qu'il y a des applications comme Shadow qui permettent de streamer des interfaces calculées à distance sur des appareils comme l'iPad. Je ne suis pas certain qu'on puisse l'utiliser. Je crois que le curseur est assez moche aussi. Donc, ça, je crois qu'il faut vraiment concevoir comme une fonction d'accessibilité. Ouais, c'est gros comme un doigt, quoi.
C'est une formule de compromis pour satisfaire, et puis habituellement, un compromis, ça ne satisfait pas. Rarement, les gens avec un compromis sont contents. C'est juste de transition le temps qu'on a. Tu sais, Shadow PC, c'est quand même assez niche, je trouve, là, dans notre domaine. Pour le reste du monde, je ne vois pas pourquoi on utiliserait une souris quand on a toutes les fonctionnalités avec les gestes, et puis qu'on sait que l'avenir, c'est plus les gestes, je pense.
Ouais, il va y avoir les deux écoles encore pendant un moment, mais il y en a un qui gagnera, c'est sûr, comme dans Highlander. Maxime Binet qui demande: bonjour, avez-vous des informations sur le transfert de bibliothèque iTunes vers musique? Alors, je ne sais pas si Léo, tu as pu constater ça, mais je crois que ça doit être assez transparent.
iTunes, moi, ça fait bien longtemps que je l'ai enterré, donc aucune idée.
On passe, mais je suis sûr que ça se passerait très bien, Maxime. Arthur, du coup, je vais garder ta question en dernier. Avez-vous été satisfait de cette concurrence? Je pense que vous l'avez ressenti. Je souhaite acheter l'iPad Pro et j'aimerais savoir le réel changement le concernant. On va y répondre juste après avec une question globale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez dans les questions sous les yeux concernant, par exemple, tiens, le Dark Mode? Dernière question, peut-être, Léo, qu'est-ce que tu perçois de ce Dark Mode? Est-ce qu'il est complètement waouh ou il est à la hauteur de ce qu'on attend d'un Dark Mode, tout simplement?
Il est pas waouh, il fait le taf.
D'accord.
En fait, c'est pas un waouh effect, voilà. Dark Mode, c'est pas non plus le truc révolutionnaire de 2019. Je suis juste très content de l'avoir sur mon iPhone, sur mon iPad. Je suis content qu'il soit en automatique parce que c'était pas le cas jusqu'ici sur macOS et c'était une aberration. C'est-à-dire que Apple s'est dit, on va faire des fonds d'écran qui réagissent en fonction de l'heure de la journée qu'il est et on va pas mettre un mode sombre automatique.
Ouais, c'est vrai.
Voilà la logique d'Apple. Donc maintenant c'est le cas, donc je suis très content. C'était ma grande frayeur parce que j'ai pas du tout envie d'être constamment en Dark Mode. Le petit truc sympa, je trouve que c'est pas hyper bien réalisé, il y a des fonds d'écran qui réagissent aussi, donc c'est oui. Tout simple en fait, quand vous êtes en mode nuit, il va mettre un truc un peu plus contrasté, il va mettre un fond noir, alors que quand vous êtes en mode light, qui est traduit par léger, par iOS 13, ça va être plus du blanc, voilà. Franchement ça fait le taf, il est bien fait, voilà, il n'y a pas de wow, c'est juste cool.
Bon, tant mieux. Alors, question tour de piste finale, parce qu'elle revient pas mal dans les différentes questions. C'est en gros, qu'est-ce qu'on peut dire d'iPadOS ? Notamment, je reprends la question d'Arthur du coup, qui dit avec iPadOS, un iPad Pro peut-il remplacer mon MacBook Pro entre parenthèses ? Et j'aime bien les cas d'usage. Internet, Lightroom, Photoshop, Matt.
Ben oui, pour ces trois-là, absolument. Encore faut-il savoir ce que tu fais. Ben c'est ça. J'y allais. Que fais-tu avec Photoshop? Est-ce que tu fais de l'infographie? Est-ce que tu fais du montage pour, je ne sais pas, moi, faire des interfaces graphiques? Est-ce que tu fais des choses comme ça? Pour le moment, non. Mais si tu fais des ajustements photo, si tu fais du recadrage, si tu fais des choses comme ça avec Photoshop, je pense que oui, Léo. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais de toute façon, Photoshop va arriver, je crois, ce mois-ci ou cet été, en tout cas. Je crois que les tests ont déjà commencé. Donc, j'ai hâte de voir. C'est vraiment, pour rappel, ce n'est pas une version mobile de Photoshop. Enfin, c'est vraiment une version retravaillée. C'est une version complète de Photoshop qu'on va voir arriver sur l'iPad. Donc, ça va être très intéressant, complètement tactile. Donc, oui, c'est toujours difficile. J'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est difficile de conseiller les gens. On ne connaît pas vraiment leur usage. Tout ce que je sais, c'est que moi, personnellement, je ne pourrais pas passer de mon Mac. C'est impossible de me passer du MacBook. Par contre, je m'en passe pour plus des trois quarts du temps. Vraiment 80% du temps, je travaille sur mon iPad et par pure nécessité, de temps en temps, j'ouvre le MacBook. Donc, je ne l'ai pas remplacé, mais disons que je dors plus avec l'iPad qu'avec le Mac.
Quand Xcode, qui est l'environnement de développement des applications, arrivera sur iPad, je pense qu'on pourra dire au revoir au Mac. D'ici là, il a encore de beaux jours devant lui. Et ultime conclusion, il y a Peuchoc qui demande, et c'est toujours une question intéressante à laquelle on peut répondre, comptez-vous télécharger la bêta d'iOS 13 et d'iPadOS? Alors bon, Léo a répondu implicitement à la question puisqu'il l'a déjà fait. Est-ce qu'on le conseille? En général, on a tendance à pas le conseiller. Maintenant, l'époque où les bêtas étaient complètement instables avant 3-4 itérations et un peu révolu, les premières bêtas sont assez vite stables. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, Léo, au regard de ce que tu as pu tester de pas le
Alors, faire ma vie est un enfer, mais, mais je me plais dans cet enfer-là. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, pour vous dire, j'ai le bug le plus chiant et j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir, c'est-à-dire que je n'ai plus iCloud sur l'iPad.
Donc, ah oui, quand même.
J'ai entré mon mot de passe au moins 50 fois aujourd'hui en me disant peut-être que j'avais fait une faute de frappe, peut-être que cette fois ça va marcher. Ça ne marche jamais. Donc je n'ai plus iCloud sur mon iPad. J'ai perdu quelques apps sur mon Mac. Apple TV, tout fonctionne bien pour le moment. iOS, j'ai quelques bugs d'affichage, mais rien de vraiment dérangeant. J'ai pas l'impression que la batterie en prenne un coup. Donc voilà, tout peut bien se passer, comme tout peut mal se passer. Donc c'est trop aléatoire pour conseiller quoi que ce soit. Moi, je déconseille fortement. Je le fais parce que je suis un peu, voilà. Mais de toute façon, en fait, il n'y a pas vraiment de killer feature que vous avez envie de tester absolument tout de suite. Maintenant, c'est pas forcément vital. Donc, vaut mieux attendre. En plus, il y a une bêta publique qui sort en juillet, je crois.
Oui, en juillet.
Bêta publique en juillet, donc c'est demain, les juillet. Donc à la limite, la bêta publique, ce sera déjà bien plus stable. Pour l'instant, il n'y a aucun intérêt à faire la mise à jour.
Si vous avez un environnement de test et que vous êtes prêt à supporter les bugs, allez-y. Matt, est-ce que tu peux rester avec nous pour la rubrique En bref, qui, comme son nom ne l'indique jamais, n'est jamais brève?
Avec
plaisir. Et tu es le bienvenu. Bon, super. Alors, on enchaîne avec la rubrique En bref. Une petite partie mise à jour de l'affaire qui concerne Babeille. On m'a fait remarquer, même à mon boulot, on m'a dit, mais s'il y a des gens qui écoutent mon podcast, qui me croisent le matin, ils me disent, dis Babeille, te prends pas la tête, t'as l'air trop débile quand t'essayes de le dire avec la... Voilà. Oh, tu le dis bien, tu m'énerves. qui concerne Babeille, qui réintègre donc la Wi-Fi Alliance, la SD Association, donc les grandes instances qui concernent cernent les normes Wi-Fi et SD, entre autres, dont on avait parlé dans le dernier épisode de Tech Café, donc il réintègre ça. Le Mate 20 Pro qui redevient partenaire du développement d'Android Q, donc ça ressemble à des bonnes tournures, mais je pense que les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles vont se succéder, à l'image d'ailleurs de l'autre dernière news qu'on a eue, qui freine sa production de smartphones, avec notamment l'intégration qui peut, la construction des appareils qui peut en être faite, a priori est ralentie fortement, et évidemment les dynamiques énormes dans lesquelles ils étaient lancés sont un peu remises en question. Est-ce que ça vous évoque une réaction, Matt ou Léo? Matt, peut-être?
On s'en doutait, c'est un peu ce qui est arrivé à ZTE. Ils ont été freinés, ils se sont entendus, c'est revenu. Huawei est tellement un gros joueur que c'est revenu. Par contre, je pense que le problème par rapport à Huawei, ça va être sur l'image. Est-ce que des gens maintenant, typiquement, tu vas dans une boutique où tu achètes un cellulaire, tu as le choix entre un Huawei, un Pixel et un Samsung. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, où on se parle, Huawei est dans les numéro un de tes choix? C'est juste ça. Je pense le dommage qui a été fait au niveau de l'image.
Ouais. Quand on voit ce qui s'est passé pour Samsung après le Samsung Galaxy Note 7, oubliez le Samsung Galaxy Fold évidemment, on peut se dire que ça peut être rapidement oublié de la part du grand public, mais t'as raison de le comparer avec ces produits, ça peut interroger effectivement. Info ou Infox, c'est un peu le sujet qui a guidé les news qui ont tourné autour d'une nouvelle réglementation sur les véhicules en France qui obligerait les constructeurs à installer des fonctionnalités de type boîte noire, un peu comme dans les avions, hein, c'est-à-dire que c'est des trucs indestructibles. Et non, ne faites pas la blague de si jamais c'est indestructible, pourquoi on construit pas les voitures avec le même matériau, c'est pas drôle. Les boîtes noires donc qui permettraient de collecter pas mal d'informations qui précèdent un accident, et qui pourrait aussi permettre de contrôler notamment la vitesse des véhicules. Les craintes, c'est évidemment les dérives, c'est d'être fliqué, et c'est d'intervenir dans le temps sur le fait d'obliger les gens à respecter les limites de vitesse, quitte à ce qu'il y ait des dispositifs automatiques qui freinent. Bon, on n'en est pas encore là, mais évidemment, il y a des levées de boucliers qui commencent à s'organiser au sujet de cette réglementation qui est en train de se préparer. Après, on est sur des bases qui laissent libre cours à l'énervement, l'interprétation sur les réseaux sociaux. Il est aussi urgent de regarder les textes de loi. Toi qui avais fait, Léo, une vidéo qui tournait beaucoup autour de l'intelligence des véhicules, est-ce que tu penses qu'on va arriver indéniablement à des contrôles à l'insu de notre plein gré, de notre vitesse et de ce qu'on fait sur un véhicule?
Alors moi, je n'ai pas le permis. Je veux juste qu'elle soit toute autonome. À partir de là, le reste, je t'avoue que ça m'intéresse peu. Oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible que ça passe par là, avant des voitures autonomes, qu'on nous robotise un petit peu. C'est envisageable.
Vous réagissez, hein, de toute façon vous me coupez quand vous voulez. On se dirigerait en France vers une interdiction sur le plan légal de la destruction des invendus, donc non périssables. Il s'agit évidemment pas d'alimentaire, mais Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé cette interdiction qui pourrait intervenir d'ici 2023. Ça peut faire suite à des news qu'on avait déjà relayées et des reportages, même vidéos qu'on avait vues, où on voyait des entrepôts Amazon détruire des tonnes de produits encore neufs. Simplement parce que le stockage coûte plus cher que de les détruire. Donc là, il y a une obligation de destruction. Je pense que si on passe pas par une obligation légale, il se passera rien. Ça nous amènera peut-être à recycler.
Dans le domaine de l'écologie en général, hein, si on légifère pas, ça va y aller dans le modèle économique avant dans le modèle logique et dans le modèle de la planète. Hein. C'est certain, c'est salutaire que ça soit ça. Ça serait salutaire pour d'autres trucs, mais au moins, c'est dans le bon sens. Moi, j'aime ça.
C'est dommage qu'on n'arrive pas à anticiper ça sans réglementation, mais c'est comme ça que ça avance. Une polémique sur les censures de tweets qui concernent la ministre Marlène Schiappa en France. Pour la faire très très courte, il y a des gilets jaunes qui ont manifesté devant le domicile de Marlène Schiappa. Elle s'est exprimée devant les médias en décrivant des situations de violence, et notamment de violence verbale assez exacerbée à son encontre et devant son domicile. Et pour contredire les propos de la ministre, il y a y a des personnes qui ont diffusé des vidéos de bout en bout de la manifestation. On voit l'intégralité de la séquence qui, évidemment, ne montre pas exactement ce que décrivait la ministre. Cette vidéo a été portée par Libération sans forcément de filtre. Et derrière, de très nombreuses personnes qui avaient relayé cette vidéo au travers de retweets ou de partages se sont vues, alors d'une part, supprimer leur tweet, mais aussi se faire bannir de Twitter pour une durée de 12 heures. Donc évidemment, il y a eu une remontée de la part des tweetos concernés qui exprimaient le fait d'être censurés. Alors il s'avère que la raison pour laquelle ces tweets ont été censurés, c'est que on reconnaît de manière trop évidente le domicile personnel de la ministre. Et c'est un motif pour lequel Twitter intervient. Alors, est-ce que ça arrange la ministre ? Probablement. Est-ce que c'est un complot où Twitter et l'État français s'organisent pour empêcher les gens de contredire les événements ? Je suis pas certain. Ou alors, ils font pas bien leur boulot compte tenu de tout ce qu'on voit passer depuis quelques mois.
c'est clair.
Je sais pas si t'avais vu, Léo, toi, ce sujet passer.
Non, j'avais pas vu, mais ça me semble assez logique. Au final, c'est quand même une information privée. Qui devrait le rester, donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas qu'on puisse parler vraiment de censure au final, c'est simplement logique.
En fait, j'en arrive à la conclusion que je trouvais juste ça débile de la part d'un journal comme Libération de pas avoir repris la vidéo, mais en floutant tous les éléments qui permettent de reconnaître son domicile, qui aurait fait finalement le même effet, mais qui aurait pas engendré les mêmes problèmes. Toujours dans la rubrique légale et réseaux sociaux, un sujet d'envergure avec le lieu de résidence de Johnny Hallyday qui a été tranché en justice, en partie, pas intégralement, mais en partie, à l'appui de son compte Instagram et de la géolocalisation des publications. Voilà, c'est juste pour savoir qu'en France, juridiquement, on va pouvoir s'appuyer sur l'historique de publication sur Instagram pour savoir quel est son lieu de résidence. Léo, t'es résident espagnol ou français ?
Alors, on est d'accord qu'on n'a pas besoin d'être géolocalisé. On a juste besoin, je crois, quand on poste quelque chose, de mettre une... Si je veux mettre Los Angeles, là, que je poste ce soir,
je peux
être à Los Angeles. Parfait, d'accord.
Petit résident américain. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je pense, les éléments qu'on peut reconnaître de la réalité. Mais t'as raison. C'est un sujet qui peut être intéressant à suivre pour voir que c'est quand même un élément de plus en plus important qui est pris en compte sur le plan juridique, les traces sur les réseaux sociaux. Justement, les traces sur les réseaux sociaux qui vont être analysées lors de votre demande de visa aux États-Unis, où ils vont vous demander de remplir vos comptes de réseaux sociaux, évidemment, notamment Facebook, Instagram et consorts. Il y a la liste complète avec une belle liste déroulante, mais ça va jusqu'à YouTube, MySpace, LinkedIn, Google+, ils demandent même Google+. Bon.
Alors, pour être très clair, ça ne concerne pas l'ESTA, hein, qui est pour une courte durée, c'est vraiment pour les visas.
Ok. Très bien, c'est bon à préciser. Bon, c'est quand même pas rassurant, mais
petit conseil, hein, si vous, ils vous le disent, hein, mais si vous le mettez pas, puis vous dites que vous n'avez pas, c'est pas grave, ils font pas une enquête. Conseil.
Ouais, voici, si tu as trop peu de choses, est-ce que justement tu fais pas partie du pool qui va être... Bon, selon un expert de l'ONU, parce qu'on aime bien aussi relayer en fil rouge un petit peu ce qui se passe concernant Julian Assange, donc selon un expert de l'ONU, il présenterait des caractéristiques de torture psychologique. Alors, ce qui est un peu délicat, c'est que je pense que les caractéristiques de torture psychologique et de captivité plus ou moins volontaire, sans forcément avoir de volonté de torture, sont peut-être difficiles à discerner, en tout cas sur le plan psychologique, il va très mal et c'est quelque chose qu'on peut garder à l'esprit concernant ces jugements. Et puis, bilan, là, Match, t'avais partagé l'article, donc tu vas peut-être pouvoir réagir aussi dans l'émission. Amazon, Echo et les médias français, un an plus tard, un bilan décevant, c'est l'article de Marie Turcan sur Numérama qui revient en France sur ce qui se passe aujourd'hui concernant les médias et ce qui est diffusé sur les appareils Amazon. Et oui, ça fait à peu près un an que c'est dispo en France avec, à l'époque, on le voyait, hein, il y avait un renfort de médias qui prenaient tous leur parole sur ces espaces-là et ça semble pas recueillir un engouement complètement tonitruant. Matt, quelle analyse il faut en avoir?
Ben, d'abord, culturellement, je pense qu'en France, vous êtes plus Google qu'Amazon. Alors, c'est pas anormal que ça soit une déception par rapport à ça. Deuxième truc, c'est un écosystème qu'Amazon, Google et à quelque part aussi Apple est en train d'implanter. Ça prend des années. C'est pas sur un recul d'une année, je trouve, qu'on peut en tirer des conclusions. On peut voir les usages de personnes. On peut voir qu'il y a certaines habitudes, certains trucs qui sortent du lot, comme demander la météo, comme rechercher de l'information sur Internet de manière générale, mais des usages un peu plus approfondis ou de l'écoute perpétuelle, je pense que c'est pas encore là, effectivement. Mais je trouve ça juste désolant que sur une année, on puisse en tirer des conclusions. On a des tendances, on a des choses qui se dégagent, mais je pense pas qu'on puisse dire ça marche ou ça marche pas, aussi blanc ou noir que ça.
Ouais, c'est aussi avec le temps, on a été tellement habitués d'avoir des technologies qui nous révolutionnent le quotidien du jour au lendemain, que maintenant, quand elles prennent du temps, on n'est plus habitués, quoi.
C'est qu'il y a deux trucs qui sont arrivés dans les 20 dernières années, là, c'est l'Internet à fond et la mobilité à fond. J'aurais dû dire, il y a le AirPod gauche et le AirPod droit. Mais tu vois, le mouvement qu'Internet a pu avoir et le mouvement de la mobilité qu'on a pu assister, c'est pas, je ne pense pas qu'on va vivre ça avec tout ce qui est assistant connecté, mais c'est pour le moment le remplacement massif de tous les petites radios que tu avais, tu sais, à pile, un petit Sony pour écouter la radio dans ta chambre de bain, dans ton salon. Ça commence comme ça. Je pense que la seconde phase par rapport aux assistants connectés, c'est l'implantation des écrans. On va le voir avec Nest, et puis on va le voir aussi avec Echo Show. Ils y vont. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences. Il y a Reinvent de chez Amazon qui arrive dans quelques mois, et ils y vont à fond sur les écrans et sur les skills du côté de chez Amazon pour compléter l'offre de services. Mais ça pourra pas, on ne pourra pas avoir du recul sur juste une année. Alors oui, le panorama média, le problème, c'est que ça va tellement mal du côté des médias en ce moment qu'ils veulent avoir des solutions vite à un problème qui est là depuis longtemps, mais qu'ils n'ont pas adressé depuis longtemps. Ils voudraient avoir tout de suite une réponse parce que la maison brûle présentement au niveau des médias.
On suivra les évolutions aussi concernant les médias, et c'est intéressant de suivre les tendances, mais de ne pas en tirer des conclusions trop hâtives, comme le dit si bien Matt. Et ben, on a fait le tour de cette rubrique en bref de ce 133e quand même épisode de Tech Café. Et sans transition, on passe au bonus. Alors, on va voir si, contrairement à ce qu'indique le conducteur de l'émission, peut-être Léo et Matt ont fait leur devoir. Alors, tiens, tu sais quoi, je vais laisser, comme c'est la première fois, Matt, que tu te joins à nous dans Tech Café, je te laisse quelques minutes et je mets encore un peu plus dans l'embarras Léo pour voir s'il a préparé un bonus pour cet épisode. Léo, est-ce que t'es venu avec un bonus ou est-ce que tu passes ton tour? Attention!
Alors, comme à chaque émission, j'ai oublié qu'il y avait une section bonus. Mais nous avons oublié quelques éléments de la keynote.
Ah, très bien.
Je vous propose un petit condensé de ces éléments que nous avons oubliés. Alors, concernant les photos, je crois qu'on n'a pas parlé de la nouvelle organisation, une nouvelle présentation chronologique et par événement, en fait. Donc, tout simplement, vous allez avoir dans vos photos toute une nouvelle organisation avec des live photos qui s'activent automatiquement, etc. Ça fait un peu de GIF, c'est très animé, c'est très joli. Et en fait, vous pouvez afficher tout ça par jour, par mois, par année. Donc, ça permet tout simplement de facilement revenir dans le temps. Et en fait, tout ça est présenté par des événements. Donc, par exemple, s'il sait qu'à tel moment, il y avait l'anniversaire de quelqu'un, si vous êtes parti en voyage, en Espagne, etc., il va vous l'afficher, il va vous le mettre en titre pour plus facilement vous retrouver. Il y a un mode qui est très cool, c'est le birthday mode. Donc, en gros, à chaque fois qu'il sait qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, il va vous montrer toutes les photos que vous avez prises avec cette personne. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça m'arrive très souvent, moi, personnellement, de vouloir rechercher des photos pour lui envoyer, lui souhaiter bon anniversaire, etc. Pour tout ce qui est montage de photos, il va utiliser les musiques que vous écoutez dans Apple Music. Voilà, si jamais vous utilisez cette abomination qui est Apple Music, il y a plus de flexibilité. Il y a plus de flexibilité dans la retouche, ce qui concerne la luminosité, etc. Un truc qui est super intéressant parce que ça fait des années et des années qu'on le demande, l'édition sur les vidéos. Jusqu'ici, c'était impossible de cropper une vidéo. C'était impossible de mettre des filtres sur une vidéo. C'était impossible d'ajuster une vidéo. C'était impossible de rotate une vidéo juste parce que vous aviez une vidéo qui était sur le côté. Là, vous étiez dans l'incapacité, sans sortir iMovie, de faire une rotation de la vidéo. Et bien maintenant, c'est possible. Vous pouvez désinstaller iMovie, ne plus jamais réutiliser cette application. C'est possible maintenant, nativement. Les edits ne suppriment plus le fichier d'origine. Ça, c'est intéressant parce que si vous ajoutez un filtre, si vous croppez une vidéo, que vous enlevez des éléments, vous pourrez au final les retrouver simplement en restaurant la vidéo. Ensuite, c'est des petits trucs qui sont tout simples, mais qui sont pas mal. Dans Messages, à la manière de WhatsApp, vous pouvez attribuer une photo de profil ainsi qu'un nom. Donc tout simplement, c'est vraiment un profil comme si vous étiez sur Facebook, et à chaque fois que quelqu'un vous contacte, vous pouvez partager ces données avec lui, donc il n'aura pas de photo à mettre, et inversement, vous aurez plein de jolies têtes dans vos conversations sur Message. Et
je crois... qu'il y a une fonction de réponse dans Message, c'est vraiment le truc mais débile qui manque. Bah, c'est-à-dire de pouvoir, tu sais, comme dans WhatsApp ou n'importe quelle app de messagerie d'ailleurs, de pouvoir citer un précédent message pour recontextualiser, parce que parfois les messages s'enchaînent et tu veux réagir à un ancien message et... C'est vraiment ce que j'attendais. Ça.
C'est vrai, il y a pas ça. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est la recherche qui a été améliorée dans Message. Tout simplement, quand vous faites une recherche, il va vous afficher directement des pièces jointes récentes, des liens récents, des photos récentes. Donc voilà, tout ça c'est plutôt cool. Et ensuite, au niveau de la performance, je crois qu'on en a pas parlé, mais Face ID a été amélioré. 30% plus rapide, le lancement de toutes les apps deux fois plus rapide, les apps prennent 50% de moins de stockage et 60% de moins concernant leur mise à jour. Et il y a un truc qui est intéressant, on en avait parlé l'année dernière ou cette année, je sais plus, l'année dernière je crois, par rapport à la batterie, le fait qu'Apple ralentissait soi-disant les iPhones pour préserver la batterie. Ils ont sorti une fonction, je crois, ils en ont pas parlé dans la keynote, mais qui est présente directement dans la première bêta d'iOS 13, c'est la recharge optimisée de la batterie. L'idée, c'est d'empêcher les mini-cycles pendant la nuit et de limiter la charge complète à 80%. Mais l'iPhone va apprendre de votre usage. C'est-à-dire que s'il sait que vous vous levez à 7h du matin, en fait, il va faire une première charge dans la nuit qui ne va pas dépasser les 80%. Par contre, à partir de 6h du matin, pour être prêt à 7h, il va relancer une charge qui, là, va être prête, qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à 100%. Comme ça, quand vous vous réveillez, vous êtes à 100%. Ce système-là permet en fait d'améliorer la longévité de la batterie, parce que on a compris en fait au fil des années que une recharge qui allait au-delà de 80% commençait à endommager la batterie si on répétait plusieurs cycles comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les fonctions dont on n'avait pas parlé. C'était mon bonus.
J'ai jamais vu un bonus aussi bien rattaché au reste des infos de l'émission. Donc bravo Léo, c'est intéressant. C'est vrai que cet aspect de la batterie est très cool, parce que il y a déjà Google qui propose d'Android, enfin notamment dans les Pixel 3 et Pixel 3a, cet aspect charge intelligente. C'est pas les seuls d'ailleurs. C'est clairement quelque chose que seuls des grands industriels peuvent faire et qui apporte énormément de chance sur la longévité. C'est très cool. Merci pour cette revue complémentaire, Léo. Matt, avec quoi étais-tu venu dans ta besace pour ce nouvel épisode de Tech Café?
Mais besace que j'avais prévu dès l'invitation.
Oh, mais qu'est-ce que t'es bon! Oui, bravo!
Je ne suis pas comme Léo. C'est cette semaine, on fête le 35e anniversaire de Tetris. Alors, on va fêter Tetris. Malheureusement, je voulais vous apporter une petite micro-console. Ça s'appelle Art2Boy. C'est une console de jeu gros comme une carte de crédit, en fait, dans laquelle vous pouvez, vous faites art2boy.com, vous pouvez brancher n'importe quelle application. Ils en avaient fait une spéciale pour le 35e anniversaire de Tetris, et malheureusement, elle est discontinuée parce que ça s'est bien vendu. Alors, vous pouvez juste acheter le art2boy normal pour pouvoir brancher n'importe quelle application dedans. Alors, on fête les 35 ans de Tetris comme ça. Et finalement, j'ai découvert... En fait, un de mes amis m'a fait découvrir Authy, qui est une application pour le multifacteur d'authentification. Et là, je parle plus à des gens pour qui la sécurité est importante et qui utilisent beaucoup le multifacteur d'authentification, et notamment celui de Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Amazon ou tous ces authenticators-là. Authy est une application qui regroupe toutes ces façons de faire-là, qui est un protocole, ça s'appelle du TOTP, vous êtes capable, à partir d'Authy, de prendre tous vos double facteurs, vos multifacteurs, et de les regrouper dans une seule et même application. Vous allez me dire, ben oui, mais Google Authenticator, c'est ça, Microsoft Authenticator, c'est ça. Moi, ce que je vous réponds, c'est qu'avec Authy, il y a une sauvegarde dans le cloud qui vous permet de le mettre sur plusieurs devices simultanés, ce qui fait qu'à partir d'un authenticator, un compte Authenticator, vous pouvez le mettre sur d'autres appareils. Alors, on sait que quand on a Google Authenticator sur son téléphone et qu'on change de forfait et qu'on n'a pas retiré ces Authenticators-là, on est un petit peu emmerdé. Mais avec Authy, vous n'avez pas de problème. Ça s'appelle Authy, O-E-H-E-A-U-T-H-Y. Et c'est une application de multifacteurs basé sur le cloud, vraiment en phase avec tout ce qui se fait en ce moment. Et vous pouvez avoir votre TOTP, en fait, votre authenticator sur votre iPad, sur votre Mac, sur votre Windows et sur votre téléphone à partir d'un seul et même compte. Et bien là, vous êtes capable de sécuriser un peu mieux, mais avec une belle flexibilité.
Et il y a d'ailleurs, une version Apple Watch très pratique.
Yeah.
Ah, très bien. Je vais tester ça. On parlait tout à l'heure des services qui souffrent des innovations d'Apple. Alors, sans doute pas dans l'immédiat, mais à moyen ou long terme, on peut imaginer que si le sign-in with Apple devait se démocratiser et s'installer très largement, les gestionnaires d'identifiants comme 1Password, LastPass et compagnie pourraient sensiblement en souffrir un petit peu. Bon, ils ont encore des beaux jours devant eux, je pense. Moi, je voulais toucher juste un petit mot de Magellan, qui est l'application de et le service de Mathieu Gallet, qui est l'ancien président de Radio France, qui se lance dans l'aventure du podcast et qui n'est pas sans soulever pas mal de critiques de la part des podcasteurs indépendants, parce que des acteurs tels que celui-ci qui s'immiscent dans l'univers du podcast en voulant en faire un business, ça fait grincer des dents pas mal de monde. Et notamment, il y a plein de monde qui se plaint du fait que l'app là qui est dispo est plutôt d'ailleurs bien réussi, mais intègre de manière un peu forcée, sans qu'on l'ait voulu, tous les podcasts. Donc vous y retrouvez évidemment Tech Café, vous y retrouvez Tech Café Domotique, vous y retrouvez tous les podcasts que vous avez l'habitude de connaître, vous retrouvez les podcasts de Matt, vous retrouvez à peu près tous les podcasts que vous retrouvez en fait chez Apple Podcasts, mais vous retrouvez aussi une section payante avec des podcasts auxquels vous pouvez vous abonner. Alors il y a une semaine d'essai, donc vous pouvez prendre le temps de tester les émissions, voir si c'est des choses qui peuvent vous apporter, mais vous pouvez acheter des séries audio pour quelques euros. Là, par exemple, il y a Tu deviendras grand, qui est une série qui est animée par Franck Ferrand sur l'histoire et qui est disponible pour 2 euros. Alors, ça fait grincer des dents. Moi, au premier abord, ça me gêne toujours un petit peu, ce type d'approche. Et en même temps, je trouve ça plutôt pas mal fait, et force est de constater que l'app est plutôt sympa. Elle a forcément plein de défauts parce que c'est une V1, et j'ai du mal à reprocher l'approche de justement avoir un catalogue qui soit très très large et qui s'appuie sur des catalogues qui soient finalement ouverts à tous, hein. Les catalogues de podcasts sur les apps de podcasts, il y en a énormément. J'ai presque envie de dire que ça me donne envie de voir ce qui va se passer par la suite concernant ce service, même si au départ je voyais ça d'un très mauvais œil. On verra bien. Matt, est-ce que tu avais suivi Magellan et puis le move un petit peu de ces plateformes évidemment ces plateformes de podcast avec Spotify? Est-ce que tu veux toucher un petit mot de l'orientation média du podcast?
Non, j'aperçois la nouvelle en même temps que tu l'as dit. Tu connais mon opinion sur l'argent versus le travail. Je vois pas pourquoi il se priverait de vendre des podcasts. La minute que tout le monde est payé comme il faut, la minute que tout le business est clair, je vois pas pourquoi il se priverait. Moi, je le vois autrement. Je le vois que si tu veux tout simplement écouter tes capsules de « Tu deviendras grand », tu peux, tu vas là-dessus, tu payes, et puis en même temps, tu découvres des podcasts indépendants. Je trouve ça bien, c'est juste une autre façon de le voir. Non, je n'ai pas plus d'opinion que ça. C'est bon business model, il y en a d'autres. Apple l'a fait dans le Apple Store au début. Il y a des podcasts qui étaient payants sur abonnement et qui étaient dans la plateforme. Il y a Spotify aussi qui va peut-être un jour fermer sa plateforme à suivre. Il y a une effervescence autour de ça. On peut juste s'en réjouir, moi, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Finalement, j'ai pas l'impression que ça enlève beaucoup de choses. Ça peut apporter des éléments supplémentaires à l'écosystème. Donc, tant mieux. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé du temps à parler de ce sujet, même si on est tous les trois d'accord pour dire que c'était un événement assez passionnant et qui faisait un petit peu date dans l'histoire des WWDC. Donc, je pense qu'on a partagé tous les trois le même plaisir à parler de tout ça. J'espère qu'on vous a apporté des infos et qu'on vous a apporté notre regard et les opinions que vous étiez en droit d'attendre de notre part. On va faire un petit tour pour rappeler à tout le monde qui vous êtes, parce que je me rends compte d'ailleurs qu'il y a peut-être des personnes qui te découvrent, je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, Matt, et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur qui tu es. On va commencer par toi, Léo. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, mais surtout où on peut te retrouver?
Oh, vous commencez à avoir l'habitude, hein, chaque fois que ça parle d'Apple dans ce podcast, je suis là. Léo Duff, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de technologie. J'invite à la pensée autour de la technologie, que ce soit autour d'un produit Apple ou alors de crypto-monnaie ou alors du suicide assisté qui mène au transhumanisme. C'est pas toujours des sujets joyeux, mais en tout cas, c'est des sujets variés. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Léo Duff Off, sur Instagram, Léo Duff Off, ou tout simplement sur YouTube, Léo Duff.
Merci beaucoup. Tu le fais toujours aussi vite, c'est beau. mais de manière toujours aussi intelligible. Tu es assez souvent, régulièrement, dans les tendances, hein, sur tes sorties de dernières vidéos maintenant.
Dernièrement, beaucoup, oui.
Bravo.
Merci.
Matt, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est pas complètement anodin que je t'ai invité à venir ici parler d'Apple, même si on se connaît de longue date.
Ben oui, alors vous pouvez me retrouver, typiquement si vous aimez l'écosystème Apple, si vous aimez en parler et avoir des gens ultra compétents, moi je fais, c'est pas moi l'ultra compétent dans le duo, je fais un podcast sur Apple, ça s'appelle Apple Différemment, je suis avec Audrey Coulot qui écrit des livres, qui a été rédactrice, qui a été journaliste dans le domaine et qui maintenant a son business dans le domaine, alors si vous voulez entendre parler d'Apple de manière différente, je vous conseille le podcast Apple Différemment.
Merci beaucoup, Matt. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur le lien tout en bas des notes de l'émission. Merci beaucoup de votre fidélité et de vos écoutes après chaque épisode de Tech Café. Je compte sur vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller déposer quelques étoiles sur Apple Podcast, on va oublier de dire sur iTunes maintenant, et de donner un petit avis sur ce que vous pensez sur l'émission. Et puis, je ne l'ai pas fait au cours de l'émission et j'en profite, si vous êtes encore à l'écoute, pour vous le rappeler, vous en informer, que Tech Café est disponible en financement participatif avec la plateforme Patreon. Vous pouvez avoir toutes les infos et savoir comment contribuer au financement sur patreon.com/techcafé. Contrairement à ce qu'on disait concernant Magellan, dans notre cas, évidemment, le podcast reste disponible pour tout le monde et c'est uniquement si vous pensez que ça vaut le coup qu'on vous propose de contribuer avec des petites sommes à chaque épisode. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à
Salut.
Tous. Ciao.